BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs. Good evening business en direct jusqu'à 20h. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
C'est le jour J, conseil des ministres. Ils nous ont attendus, vous voyez, pour présenter le projet de budget 2025, budget de tous les dangers. On va en parler bien sûr dans un instant avec Thomas Asportas qui a des infos exclusives. On se demande ce qui restera de ce budget évidemment dans quelques semaines. On va largement parler jusqu'à 20h. Tout ça n'est pas très reluisant. Heureusement, votre invité va nous apporter un petit peu d'oxygène.
Ah oui, comme on ne sait rien pour l'instant, tant qu'à faire, autant apprendre quelque chose. Nos invités, c'est Tony Parker, le grand sportif qu'on ne présente plus, mais qui est devenu un businessman. Il a même remporté un prix à Longchamp, parce que vous savez, il est passionné de chevaux aussi. Et puis, je le reçois avec Agnès Perrin-Turenne. Il lance, juste à côté d'ici, le camp US, vous voyez, Tony Parker, en fait, c'est les valeurs du sport appliquées aux dirigeants. Voilà, formation. Intéressant de voir c'est quoi les valeurs du sport qui pourraient servir les gens qui nous écoutent. Puis je lui demanderais, le collectif, c'est peut-être quelque chose qui manque à l'équipe de Michel Barnier, non? Qu'est-ce qu'il pourrait leur apprendre? Les conseils de Tony Parker à Michel Barnier, non? C'est une bonne idée?
Pour tenir le coup en discussion parlementaire, évidemment, cet automne, c'est pas mal. Voilà le programme, plus bien d'autres choses. On est ensemble, évidemment, jusqu'à 20h.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc oui, ce projet de budget présenté en ce moment même, le Conseil des ministres débute à l'Élysée à 18h. Bonsoir Thomas.
On y est.
Et alors vous avez des informations parce que vous nous dites que la Cour des comptes, qui évidemment a tout, est inquiète du cadrage budgétaire qu'a retenu le gouvernement. Que dit le Haut Conseil des finances publiques concrètement?
Alors déjà, ce qu'il dit, c'est qu'il regrette très fortement que le gouvernement ne lui ait transmis aucun élément d'information sur les réformes et les investissements dans les années à venir. Parce que sans ces éléments-là, évidemment, la Cour des comptes dit qu'elle parle en l'air et qu'elle ne peut pas évaluer sérieusement le cadrage budgétaire et macroéconomique présenté par le gouvernement. Ça, c'est le premier point de son avis. Ensuite, pour les objectifs en eux-mêmes. D'abord, sur la croissance. Le gouvernement revoit à la baisse sa prévision de croissance potentielle à 1,2% au lieu de 1,35% entre 2024 et 2028. Et ensuite, ça baisse même encore davantage à seulement 1%. Le Haut Conseil dit que ces nouveaux chiffres sont raisonnables, donc ça leur convient mieux. Mais ce qui leur pose problème, en revanche, c'est que les prévisions de croissance qui sont inscrites dans le budget, elles sont au-dessus de cette croissance potentielle, puisqu'on est à 1,4 en 2026 et à 1,5 entre 2027 et 2028. Donc décalage entre potentiel de croissance et les chiffres affichés dans le budget. Et même pour l'année prochaine, vous savez qu'on a un objectif de 1,1%, je cite le Haut Conseil, ils disent que cette prévision apparaît un peu élevée, ne serait-ce que 1,1%. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils estiment que ces prévisions, ces chiffres tablent sur une très forte consommation des ménages, alors que l'épargne est toujours au plus haut, il n'y a aucun signe qui dit qu'on va puiser dans notre épargne. Deux, l'investissement des entreprises, lui aussi, serait à un plus haut historique, alors que l'INSEE nous dit dans une note de conjoncture qui est parue à 17h qu'au contraire, ça recule, et assez sérieusement. Et enfin, c'est basé sur des hypothèses assez favorables sur le commerce mondial.
Et malgré ces hypothèses optimistes, la Cour des comptes est très perplexe sur la réduction et du déficit et de la dette.
Ben oui, c'est ça la double peine. Elle considère que l'objectif de déficit de 5% pour l'an prochain, je cite, présente un risque élevé d'être dépassé. Vous savez que c'est la pierre angulaire du budget de l'année prochaine, ce déficit de 5%. Eh bien, la Cour dit que cet objectif présente un risque élevé d'être dépassé. La France aura en moyenne 5%, pas que pour l'an prochain, mais ce serait la moyenne de déficit d'ici à la fin du quinquennat. C'est le chiffre de déficit 2027, 5%. Ça ne repassait sur les 3% qu'en 2029, donc ça c'est pour le déficit. Et pour ce qui est de la dette, elle repartirait fortement à la hausse d'ici à la fin du quinquennat de 6,5 points de PIB par rapport à l'an dernier. Ça ne commencerait à refluer qu'à partir de 2028. Et pour finir, le mal est vraiment profond sur la dette, Guillaume, parce qu'en 2030, la France elle aurait autant de dette qu'en 2020, au moment où la crise sanitaire a explosé. C'est-à-dire que 10 ans après le Covid, la France n'aurait pas réussi à faire refluer la dette héritée de la crise.
Conclusion, il faudra d'autres
10 ans de perdu sur la dette.
10 ans de perdu sur la dette, donc il faudra peut-être d'autres efforts au-delà de ce qu'on nous prévient pour l'an prochain.
Pour l'an prochain, oui. Absolument. Ça risque d'être seulement qu'une petite étape l'an prochain.
Merci beaucoup Thomas, on en reparle bien sûr avec nos experts jusqu'à 20h. Alors puisqu'on parle d'argent, vous savez que ça se confirme, on va se remettre autour de la table pour discuter de la réforme de l'assurance chômage. D'après nos informations, toujours, la ministre du Travail a demandé aux partenaires sociaux de reprendre le dialogue. Elle leur a surtout demandé, en fait, de faire des économies supplémentaires. Caroline Morisseau.
Patronat et syndicats vont bien devoir réaliser des économies supplémentaires sur l'assurance chômage. 400 millions d'euros par an, soit 1,2 milliard d'euros au total sur les 3 ans de la convention UNEDIC. Et c'est en plus des 400 millions d'euros attendus grâce au décalage de 2 ans de l'âge à partir duquel les seniors bénéficient d'une durée d'indemnisation plus longue. On est certes très loin des 3,5 milliards d'euros attendus par la réforme Attal qui vient d'être enterrée. Mais patronat et syndicats doivent malgré tout trouver une solution et tous ont déjà une idée en tête, s'attaquer à ces salariés frontaliers qui travaillent et donc cotisent en Suisse ou au Luxembourg, mais qui, une fois au chômage, sont indemnisés par la France, avec à la clé une facture de 800 millions d'euros par an. On ne peut pas supprimer ce dispositif qui relève d'accords entre États membres, mais on peut l'aménager, nous dit un responsable patronal, en obligeant ces chômeurs à reprendre plus rapidement un emploi, même s'ils sont moins bien rémunérés, de quoi réduire la facture.
Lynn Morisseau avec nous sur BFM Business. Alors tenez, au moment où en France on se prépare à présenter le budget 2025, on voulait vous parler de ce qu'est en train de faire le Portugal, qui présente son projet de budget aujourd'hui avec une mesure un peu originale, un plan de réduction d'impôts, mais seulement pour les jeunes adultes. Mathilde Chaminan nous raconte ça.
Moins d'impôts sur le revenu pendant les 10 premières années de la vie active. La première année, les jeunes en seront complètement exemptés, puis le taux augmentera progressivement. Cette mesure pourrait coûter jusqu'à 650 millions d'euros par an, mais le parti au pouvoir pense que c'est nécessaire pour retenir les talents. Le Portugal a le taux d'émigration le plus élevé de l'Union européenne. Une émigration jeune, les 2/3 des émigrants ont entre 15 et 35 ans, et qualifiée, la moitié est diplômée du supérieur. Si elles sont adoptées, ces réductions d'impôts permettraient de retenir plus d'étudiants portugais et pas seulement, les étrangers pourront en bénéficier aussi. Mais la fiscalité n'est pas le seul problème auquel sont confrontés les jeunes au Portugal. Les salaires restent moins élevés que dans la majorité de l'Union européenne. Le Fonds monétaire international avertit que les effets sur l'émigration d'un traitement fiscal préférentiel pour les jeunes sont incertains.
Mathilde Chaminade, on va revenir en France et parler immobilier. Vous savez que Michel Barnier, pendant son discours de politique générale, avait évoqué l'idée d'étendre le PTZ, le prêt à taux zéro, pour favoriser bien sûr l'accès à la propriété. Eh ben, on a une étude aujourd'hui de l'association Qualitel qui nous confirme à quel point on est sur un sujet, toujours en 2024, absolument crucial pour les Français. Marie-Cœur de Roy.
Voilà un baromètre qui vient casser bon nombre d'idées reçues. D'abord sur l'appétit des Français pour la pierre, l'envie de devenir propriétaire reste nettement majoritaire. 75% des 18-24 ans et même plus de 80% des 25-49 ans en font une priorité. Malheureusement, dans un tel contexte, les Français n'ont jamais été aussi nombreux à être pessimistes. Près de 60% d'entre eux jugent désormais ce rêve inaccessible. De quoi apporter de l'eau au moulin des défenseurs d'une relance de l'accès à la propriété, mais pas pour n'importe quel projet. Le baromètre Qualitel définit le logement idéal des plus jeunes. Une maison pour 77% d'entre eux, neuve pour les 2/3 et à la campagne pour plus de la moitié d'entre eux. Loin du cliché de la vie citadine, ce rêve devrait nourrir le débat sur la réintégration de la construction de maisons dans le prêt à taux zéro.
Marie-Cœur de Roy, quelques mots d'entreprise. D'abord, mauvaise passe pour IKEA. Le groupe nous a dit ce matin que sur son exercice annuel 2023-2024 qui s'est achevé là fin août, son chiffre d'affaires avait baissé d'un peu plus de 5% par rapport à l'année précédente. Le groupe a dû baisser ses prix pour s'adapter à la crise du pouvoir d'achat et le coup de frein du marché de l'ameublement. C'est un proche de Vincent Bolloré qui va prendre une place stratégique chez Hachette Livre, 3e éditeur mondial. Il s'agit de Jean-Philippe Thierry qui devient directeur général délégué. C'est Arnaud Lagardère, bien sûr, qui reste PDG du groupe. Et puis, il n'avait pas encore quitté la Russie. Unilever, géant mondial de l'alimentaire, de l'hygiène, des cosmétiques, annonce qu'il va finalement en partir. Il va vendre sa filiale à un acteur local. Unilever possède 4 usines en Russie, 18h07. On va donc sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé aujourd'hui ?
On a été prudent, hein, avec un CAC 40 qui termine sur une petite baisse, moins 0,24%, 7541 points. Le catalyseur du jour, c'était l'inflation américaine, mais qui est un peu supérieure aux attentes. Et ça a provoqué pas mal de volatilité autour des marchés de taux, et notamment le 10 ans américain, qui a même grimpé au-delà de 4,1%. Là, on descend à 4,08, mais on sent un petit peu de nervosité, hein, de la part des marchés. La plus forte hausse sectorielle, c'est quand notamment le secteur de l'énergie qui s'est bien bien comporté. Alors à noter que le baril de Brent se rapproche à nouveau des 79$. On est à 68,90 en ce moment. Mais les plus fortes hausses du CAC 40, on le voit, Engie plus 1,14, 15,57€. Total Energy aussi plus 0,7 à 62,41. Et Veolia prend 0,8% à 29,49. À la baisse, Téléperformance, moins 2,76 à 86,54€. Du côté du SBF 120, on a aussi quelques performances à signaler. Worldline, hein, qui s'est bien bien comporté, le titre a gagné 2,9% à 6,54€. Puis la score qui a gagné 2,8% à 20,54€. Les marchés sont plutôt rassurés, se disent que tout ce qui est remboursement en matière de catastrophes naturelles, alors qui s'amoncelle en ce moment, sera un petit peu moins élevé que prévu. Donc du coup, on était plutôt positif sur la valeur. Les marchés à la baisse du côté du CAC 40, on a retrouvé Eurofin Scientifique aussi qui a perdu 2% à 54,96€. C'est un titre qui marche vraiment plus bien en ce moment. Unibail-Rodamco Westfield dans la foncière qui perd 1,7% à 74,72€. Puis à noter une valeur vraiment cyclique liée aux cycles économiques, c'est Schneider Electric aussi qui a perdu 1,3% à 239,15€. Le CAC donc moins 0,24, 7541 points. Coup d'œil sur les autres marchés européens, on a fait quasiment pareil. Le DAX à Francfort, moins 0,23%, moins 0,25% pour l'Eurostoxx 50. Et puis un dernier coup d'œil sur l'euro-dollar. On est à 1,0927.
Alors, on regarde ce qui se passe à Wall Street pendant ce temps, Antoine. On est à la mi-séance sur le marché américain. Le Dow Jones qui perd 0,14%, 42 452 points. L'indice Nasdaq, de son côté, qui est stable, 18 288 points. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir à Wall Street ?
Un peu de nervosité. On va continuer à suivre le 10 ans américain, bien sûr. Peut-être regarder aussi ce que fait Tesla, qui est une valeur qui a quand même tendance à pas mal se rattraper ces derniers temps, avec l'annonce de ventes record du côté de la Chine sur la dernière semaine du troisième trimestre, en tout cas. Plus de 26 000 immatriculations. La mise en place de son service de robotaxi, tout ça fait un petit peu débat. Mais tout ça anime aussi la valeur. Tesla qui se rattrape bien ces dernières semaines et qui reprend à peu près 5% en un mois.
Merci beaucoup Antoine. 18h10 sur BFM Business. Tony Parker et Agnès Parrain-Turenne sont donc les invités d'Edwige Chevrillon. La grande interview arrive dans deux petites minutes sur BFM Business. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité, c'est Agnès Perrin-Turenne. Bonsoir Agnès Perrin-Turenne.
Bonsoir Edwige.
Et peut-être, on attend toujours, peut-être qu'il sera là, Tony Parker, qui est toujours coincé du côté de la Madeleine. Donc à mon avis, il arrivera sans doute un petit peu trop tard. Agnès Perrin-Turenne, vous êtes avec Tony Parker. Vous lancez aujourd'hui de Tony Parker, le campus. Il y a un petit jeu de mots sur le US, bien sûr. Tony Parker, en fait, l'idée que vous avez avec lui, c'est de créer un centre de formation pour les exécutifs, pour les dirigeants d'entreprise. Et puis ensuite, on le verra dans un deuxième temps pour les étudiants. L'idée, c'est d'appliquer, puisque c'est dans le club de sport d'ici les Moulineaux, là, juste à côté. L'idée, c'est d'enseigner aux exécutifs, aux dirigeants, les valeurs du sport. C'est quoi les valeurs du sport d'abord ? Ce sont quoi plutôt ? On a vu pendant les Jeux Olympiques, tout ça a été formidable, etc. C'est quoi les valeurs du sport ?
On les a vues, on les a vraiment vécues, ressenties. Les valeurs du sport, c'est déjà travailler ensemble, c'est le collectif. Mais dans le collectif aussi, il y a les leaders. Et puis il y a le management, et puis il y a tous les aspects de résilience, les échecs, mais il faut repartir, on se donne des objectifs et on atteint des objectifs. Donc les valeurs du sport amènent beaucoup, sont très présentes dans le management et donc très utiles pour effectivement les exécutifs.
Qu'est-ce qui monte à votre avis, parce que vous avez un parcours, on y reviendra, vous êtes passé par l'académie, vous êtes prof surtout.
Au début oui.
Voilà, au début oui, mais je retrace un peu votre carrière. Vous êtes passé par Academia, qu'on connaît aussi ici, et puis vous étiez à la Tony Parker Adéquate Academy, c'est un peu un autre centre de formation qu'il a lancé près de Lyon, je crois.
Tout à fait.
Et donc là, maintenant, vous l'accompagnez dans sur ce campus US. Qu'est-ce qui manque, à votre avis, aux dirigeants actuels ? Économique, d'abord, ensuite on verra aux politiques.
Écoutez, ce qui manque, et le sujet à l'heure actuelle, c'est aussi d'animer, voire même de faire revenir des collaborateurs dans leur activité professionnelle en présentiel, c'est-à-dire dans les bureaux. La jeune génération, on le sait, est très connectée, a du mal à se fixer. Et puis, le post-Covid a fait que le télétravail est devenu un argument, est devenu une valorisation. Et il y a des avantages pour les collaborateurs, mais pour les managers, c'est quand même compliqué d'animer des équipes. Et donc, le sujet, effectivement, c'est comment faire revenir les collaborateurs au travail, dans les bureaux, et comment justement la formation peut être un outil en présentiel, peut être un outil pour animer et faire revenir les collaborateurs.
Est-ce que les valeurs du sport, s'il fallait les caractériser, ce serait quoi ? Parce qu'on voit bien quand même, bon d'accord, il y a la discipline, il y a la compétition, ce que vous avez dit à l'instant, les hauts et les bas, mais il n'y a pas que ça.
Bien sûr que non, il n'y a pas que ça. D'abord, il y a l'entraînement. C'est du long terme, hein, ouais, le voilà, sport. Hein. Je pense qu'on l'a vu pendant les Jeux Olympiques. Ça se fait pas comme ça. Et même quand ce sont des disciplines très soudaines, j'ai envie de dire, quand il y a vraiment le centième de seconde derrière tout ça. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup l'ont exprimé pendant les Jeux. Derrière tout ça, il y a des heures et des heures d'entraînement. Et quand on se donne un objectif très lointain, parce que parfois c'est des Jeux pour dans 4 ans, dans 8 ans, un champion du monde, etc. Tous les jours, d'aller dans un bassin, de regarder le carrelage, je pense qu'on a entendu Marchand là-dessus.
Ah oui, et ça c'est sûr.
L'abnégation nécessaire pour le moment fatidique à un centième de seconde et avoir l'obtention de tous ces efforts juste à ce moment-là, ça c'est quelque chose quand même de vraiment atypique.
Alors comment vous allez faire pour enseigner ça ? Vous voyez, parce qu'il faut une formation, vous allez apprendre le management et le leadership, l'empowerment au féminin, on en parlera, la gestion des conflits, ça aussi c'est un point important. Absolument. Comment vous allez vous y prendre ? Et alors, puis après, sélectionner les dirigeants.
Alors justement, en termes de formateurs, on va choisir des formateurs issus du milieu du sport, parasportifs ou sportifs de haut niveau, qui non seulement enseignent, mais qui ont vécu tout ce dont on parle et qui vont pouvoir vraiment le transmettre, j'ai envie de dire.
Exemple,
presque,
à part Tony Parker, il y a un
avec leur trip. Bah, écoutez, on va travailler avec une association qui s'appelle Le Sport a du Cœur, qui engrège effectivement beaucoup, beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau. Et donc, et puis tous ceux-là qui ont vécu les Jeux Olympiques, qui ont eu leur heure de gloire, mais qui, sur le marché du travail, n'ont pas tous des situations satisfaisantes.
Ah,
donc, ils vont
plaisir,
justement avoir sans doute très à cœur de pouvoir partager ce qu'ils ont vécu et de pouvoir le transmettre aux étudiants et aux collaborateurs.
On dit souvent, c'est ce qui manque aux sportifs français, justement, tout ce que vous venez de décrire. Certains ont quand même démontré qu'ils en étaient capables. On a vu les bons résultats et les super résultats de certains grands sportifs à l'occasion des Jeux Olympiques. Mais alors, vous me direz, Tony Parker pourrait peut-être plus répondre que vous à cette question, mais la différence entre un sportif américain et un sportif français, c'est quoi ? C'est le mental ?
Alors oui, Tony pourrait répondre mieux que ça. Il y a le mental, mais il y a aussi la partie économique, justement. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand même, il y a des moyens, effectivement, financiers, parce qu'il y a beaucoup plus de sponsoring. En France, il y a du sponsoring, mais on est encore très en deçà de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est la réalité économique de beaucoup de sportifs. Hormis les quelques stars, beaucoup vivent dans une précarité extrêmement importante.
Oui, et puis en plus, ils n'ont pas forcément les moyens, justement, de s'entraîner comme comme l'ont eu certains.
Ils ont leur activité professionnelle, ils sont des parents aussi, hein, souvent, et puis le sport à haut niveau en plus, donc beaucoup de sacrifices.
Alors, ce campus US, ce campus Tony Parker, comment ça va fonctionner ? Expliquez-nous. Parce qu'en plus, vous avez déjà des partenaires, des entreprises partenaires, notamment Thierry Cotillard, qui est décidément partout, le patron d'Intermarché.
Oui, alors déjà, vous le voyez à l'image, c'est d'abord un équipement sportif, hein, la Cité des Sports à Issy-les-Moulineaux.
Donc ça veut dire que là, les dirigeants qui vont venir, vous allez leur faire le tour.
Ils vont venir, absolument. Ouais.
Ils vont venir pratiquer
du sport. Ils vont venir se former on va designer l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va faire une boîte à l'intérieur de la boîte pour pouvoir non seulement obtenir et transmettre des programmes de formation, mais aussi les vivre, et ça c'est très important, manipuler, créer, vivre, s'entraîner justement. Et donc c'est à la fois du présentiel en contenu, mais aussi de la pratique sportive pour éprouver justement les enseignements et les apprentissages.
Alors, votre objectif, c'est d'avoir 1500 à 4000 salariés. Mais alors, qu'est-ce que vous allez proposer aux entreprises ? Il y en a beaucoup de dirigeants qui vous écoutent, là. Qu'est-ce que vous allez concrètement leur proposer ? Donc, c'est à partir du 1er janvier 2025. Oui. J'imagine que ce n'est pas que pour faire du sport, c'est aussi pour leur leur enseigner, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ça sera des cours, ça sera expliciter.
Oui, on va lancer des programmes de formation autour du management, du leadership, l'empowerment féminin, on va peut-être en parler effectivement, la créativité, la gestion de conflits.
Oui, il y aura une heure de cours, deux heures de cours.
Il y aura des heures de transmission de contenu et il y aura de la pratique sportive associée. Il y a à l'intérieur de la Cité des Sports des équipements majeurs, il y a aussi des murs d'escalade, par exemple. Donc, c'est comment effectivement éprouver ce qu'on apprend de manière concrète par la pratique.
Oui, donc en fait, ça sera quand même un enseignement presque plus sportif que éducatif.
Je dirais pas qu'il y a une égalité, mais en tous les cas, il y aura une proposition d'attacher du sport et de la pratique, effectivement, à l'enseignement.
Oui. Comment vous allez apprendre le collectif ?
Le collectif, c'est le vivre ensemble. C'est
je suis d'accord, ça, je vais donner la définition. Ouais. Moi, ce que je veux savoir, c'est que là, vous nous apprenez, je ne vais pas dans une rédaction, ce serait une bonne idée de peut-être demander au gouvernement de Michel Barnier d'aller faire ça, d'apprendre le collectif.
Non, ça va être dans la démarche pédagogique, c'est-à-dire qu'on va fonctionner avec une pédagogie sur le projet. Donc, c'est comment bâtir, comment construire quelque chose avec une feuille de route, et donc quand chacun peut exprimer et mettre à profit ses compétences, son expertise, pour un projet.
Mais concrètement, qu'est-ce qui manque à votre avis quand vous allez recevoir des gens ? Qu'est-ce qui leur manque ? Pour qu'ils viennent chez vous, c'est qu'il leur manque quelque chose.
Ce qui manque, c'est justement savoir travailler ensemble. Mmh. C'est-à-dire savoir utiliser les compétences de chacun à bon escient. Il y a une technicité de plus en plus importante. On demande effectivement...
Oui, c'est ça, c'est cette technicité du collectif que j'aimerais bien mettre en avant.
Absolument, mais c'est un patchwork justement d'expertise. Et c'est comment l'ajustement de chacun et de chacune va permettre effectivement de faire une réalisation et donc de porter un projet.
Et il y aura combien de... Enfin, ça dure combien de temps cette formation ? Et surtout, après, on a quoi ? On a un diplôme ? Non, on n'a pas un diplôme reconnu par l'État.
Non, pas pour les collaborateurs.
On aura juste le diplôme tenu par cœur, quoi.
Oui, enfin, du campus, mais il y aura une certification, puisque c'est l'entreprise Lucie Éducation qui va faire les contenus pédagogiques. Non, puis il faut distinguer, là, ce qu'on va faire, effectivement, pour les collaborateurs d'entreprise. Et après, il y aura aussi un programme pour les étudiants.
Deuxième phase. Mmh. La deuxième phase, effectivement, c'est... Et on va quand même rappeler que la surface de sport, c'est 23 800 mètres carrés.
C'est énorme.
Donc c'est quand même
très bel
beaucoup.
Équipement. Ouais, neuf en plus.
Et puis à l'intérieur, pour faire les cours, à l'intérieur c'est 3300 mètres carrés. 1500-4000 salariés, ça fait un objectif quand même...
C'est ambitieux.
Ambitieux.
Oui.
À partir de quand ? Donc le 1er janvier 2025, ça coûtera combien et combien de temps ?
Alors, c'est ambitieux parce que la ville d'Issy-les-Moulineaux porte en elle et autour, évidemment, des sièges sociaux majeurs. Donc, on va avoir des partenaires économiques puissants et eux-mêmes vont être effectivement des contributeurs pour pouvoir proposer à leurs salariés de venir se former donc à la Cité des Sports. Ensuite, au niveau des tarifications, dans le sponsoring et dans l'offre partenaire que l'on aura, il y aura une partie de visibilité et il y aura une partie de contenu pédagogique, donc de programme de formation. S'ils veulent davantage de programmes de formation, on sera à l'entour entre 3 000 et 5 000 euros le programme.
Pardon, qui dure combien de temps ?
Qui dure entre une journée et deux journées. Et
après, ah oui, donc c'est assez court, c'est pas trois mois.
Oui, ce sont des sessions.
C'est des sessions très courtes,
en fait. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir co-construire avec le partenaire et avec le client un programme vraiment sur mesure pour répondre spécifiquement à ses besoins.
Et Thierry Cotillard, c'est quoi son rôle dedans ? Alors lui, c'est...
Mais c'est un peu comme Tony, c'est un ambassadeur. Ouais. C'est quelqu'un qui va attirer d'autres partenaires économiques, qui lui font confiance. Donc c'est vraiment... c'est un collectif. Vous parliez de collectif, justement. Nous sommes un collectif d'entrepreneurs, Tony, Thierry...
Oui, vous-même, vous êtes entrepreneur.
Absolument. Mmh. Et donc, c'est ce collectif qui va mettre à profit au maximum son réseau pour pouvoir faire que d'autres entreprises viennent s'engager auprès de nous.
Et l'objectif, à partir de 2027, c'est d'avoir des étudiants
Septembre 2025, pour la première session d'étudiants.
Je crois que c'était 2027.
Non, pour les masters, mais on va commencer par le bachelor, donc des étudiants. Et là, l'originalité et la force du projet, c'est de faire rencontrer aussi bien des collaborateurs que des étudiants, non seulement sur le même lieu, mais aussi même dans des mêmes sessions de formation, puisqu'il y aura une symbiose de certains programmes pour, effectivement, voilà, les entrepreneurs, pour partager les mêmes contenus. Oui. Donc ça, c'est une originalité forte, parce que généralement, il y a des écoles pour les étudiants, il y a des organismes de formation, mais faire qu'ensemble, ces deux publics se rencontrent, ça, c'est tout à fait innovant.
Et là, il y aura un diplôme pour le coup.
Alors là, il y aura un diplôme
reconnu par l'État.
Absolument. Oui,
et on aura un diplôme de quoi ? De sport ? On aura
Un diplôme d'exécutif,
de sport et management.
Sport et santé, sport et data. C'est quelque chose qui se développe énormément.
C'est
avec
quoi sport et data ? Ça veut dire
derrière, après l'intelligence artificielle. Mais on a vu là pour les Jeux Olympiques, tout ce qui était données était extrêmement important dans la compétition, justement, et dans l'élaboration de plans stratégiques pour la performance.
Est-ce que les entreprises partenaires s'engagent à embaucher ensuite les étudiants qui sont passés par votre campus?
Alors, il n'y a pas d'engagement, mais il y a effectivement une injonction importante. C'est vraiment l'enjeu. Je vous parlais de mixité de public entre les étudiants et entre les collaborateurs, mais c'est aussi la rencontre des entreprises avec les étudiants qui vont pouvoir détecter des talents, qui vont pouvoir identifier des potentiels et qui vont pouvoir aussi faire connaître des métiers, proposer des stages à tous ces jeunes.
Il y a... Et puis, il y a un enseignement, alors moi qui me paraît essentiel, mais c'est normal, nous sommes deux femmes. C'est effectivement l'empowerment au féminin. Ben, vous n'allez pas apprendre ça à Tony Parker ou à Thierry Cotillard, là, parce que je ne les vois pas tellement là-dedans.
Ah oui, c'est
vrai. Mais je peux me tromper.
Alors, que vous dire sur ce sujet? Déjà, non, en termes de valeur, Tony est quand même très attaché, effectivement, à la promotion du sport au féminin, surtout à donner les mêmes atouts.
Ça se voit à l'ASVEL.
Et à donner
le basketball qui
a. Concrètement, les mêmes budgets à ces deux clubs, féminin et masculin. Donc, c'est quelque chose qui a de l'importance pour lui.
Et en plus, il a plus de réussite avec l'ASVEL au féminin qu'au masculin.
Quelle est très belle réussite.
Ouais. Voilà.
Et pour avoir travaillé sur ce sujet avec lui, qui le sait, m'importe beaucoup, on a eu déjà des expériences et des projets avec l'Agence française du développement sur l'accompagnement de clubs.
Mais concrètement, pardonnez-moi de revenir toujours au concret, mais c'est ça que je trouve intéressant. Qu'est-ce que vous allez enseigner ?
Pour l'empowerment féminin, l'empowerment féminin, c'est pas réservé aux filles justement. C'est
mais
justement d'intégrer les hommes dans ces programmes pour pouvoir montrer effectivement que l'empowerment féminin, c'est pas quelque chose qui se déclare. Ce sont pas juste des données, mais c'est ce promeut, il doit y avoir une politique à l'intérieur de l'entreprise qui permette effectivement de faire monter les femmes à des postes clés, particulièrement aux postes exécutifs.
Vous êtes passé, vous êtes prof, hein, je le disais à l'origine, vous êtes passé par Academia, vous êtes passé par l'autre campus de...
Ouais, j'étais entrepreneur aussi.
Là, vous allez comprendre ma question de Tony Parker. Là, il y a ce campus que vous lancez, vous êtes associé en fait au projet de Tony Parker. On voit bien que c'est un nouvel Eldorado, en fait, il y en a beaucoup qui ouvrent leurs propres écoles. Un nouvel Eldorado de l'accompagnement scolaire, ça veut dire quoi? C'est quand même quelque part un échec de peut-être de l'éducation nationale.
Je vous vois venir, je dirais pas un échec. En tous les cas, ce sont de nouvelles propositions qui sont
un business très lucratif.
Forcément agile, puisque elles intègrent ce que ne fait pas l'éducation nationale. Elles intègrent le privé, justement. Mmh. Elles intègrent les entreprises dans le dispositif. Et ça change tout. Parce que, à la fin, l'objectif, c'est quand même de trouver un emploi pour les étudiants.
L'objectif, c'est aussi de gagner de l'argent, puisque vous êtes une entrepreneur et un business.
Oui, c'est un business. Après, on peut faire bien ce business. Et
évidemment.
Surtout, le faire avec une notion d'impact, parce qu'on a un programme égalité des chances qui va s'insérer dans le campus. Et donc, c'est aussi permettre à certains jeunes qui ne pourraient pas effectivement s'inscrire dans ce type d'école privée de pouvoir bénéficier de bourses par le biais justement de l'appui de partenaires économiques.
Ouais. Mais comment vous expliquez quand même cette multiplication d'écoles ?
Moi,
les entreprises créent leur propre école. Alors là, on voit bien, c'est qu'ils ne rencontrent pas, il n'y a pas la formation nécessaire, mais.
Moi, je crois que d'abord, c'est un marché qui va encore se développer. Mmh. Il permet encore une fois l'agilité. On voit que les compétences vont très très vite. Alors, les compétences techniques, souvent, vont être prises en charge justement par l'entreprise elle-même directement, mais tout ce qui va être des savoir-être, ce qui va être des codes, la culture générale, la culture d'entreprise, ça, effectivement, des organismes privés vont pouvoir s'y atteler.
Merci beaucoup, Agnès Perrin-Turenne, d'avoir été avec nous. Donc, la cofondatrice associée avec Tony Parker. Bah lui, on peut peut-être lui apprendre qu'il faut arriver à l'heure, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être la première chose qu'on va lui apprendre. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous. Donc le campus Tony Parker ouvre ses portes dans maintenant 2 mois et demi, 3 mois.
Et voilà, oui, absolument.
Merci beaucoup en tous les cas vous d'avoir été là.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 18h35, les experts BFM sont là. Première partie pour décortiquer ensemble l'actu jusqu'à 19h. Déjà, Edwige Chevrillon est avec nous. Rebonsoir Edwige.
Oh, bonsoir.
On est avec Bruno Lomar. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bienvenue, directeur général du cabinet New Horizon Partners, ancien haut fonctionnaire à Bruxelles. Puis Emmanuel Le Chip qui est avec nous, bien sûr. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir à tous.
Bienvenue
bonsoir
également. Bon, qu'est-ce qui est arrivé à Tony Parker alors
Ah bah écoutez, je sais pas, il était.
Pour qu'il revienne, hein, parce que là.
Ouais, bah je pense qu'il va revenir. Il était un peu embêté. Il a été coincé. Donc, il était encore à la Madeleine deux minutes avant l'interview. Il faut dire que, bon, quand on connaît la circulation à Paris, on sait que ça marche. Mais plus sérieusement, maintenant, ce que je trouve intéressant, c'est cette notion de marier les valeurs du sport avec les valeurs du management.
Oui,
et notamment jouer collectif. Ça va peut-être introduire le débat qu'on va avoir
absolument,
sur le budget.
Absolument, bien sûr.
Et j'ai envie de dire du pauvre Premier ministre qui n'arrive pas à contenir toutes les fuites qui sont sorties depuis quelques jours et qui créent quand même un peu une grande pagaille. Mais donc, il lance ça juste à côté à Issy-les-Moulineaux. Avec Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché, et d'autres entreprises.
Alors, c'est quoi exactement
En fait, vous passez une journée, deux journées, trois journées à faire du sport et en même temps à apprendre. À enseigner ensuite qu'est-ce que vous en avertirez, notamment sur la question du leadership, sur le fait de connaître des échecs. Par exemple, il y a un mur d'escalade, si vous vous cassez la gueule, eh ben, il faut apprendre à repartir. Il est avec des sportifs qui ont été aux Jeux Olympiques et donc qui, eux, ont pratiqué, on connaissent bien les échecs et les succès, voire des grands succès.
Ouais. C'est pour les managers, c'est ça?
C'est pour des managers, c'est d'apprendre le management.
Mais
ça, c'est une chose importante.
Gérald, passe le ballon à Gabriel.
C'est ça, c'est un petit peu ça. Non, mais cela dit, au passage, on rigole. Mais c'était déjà dur d'être manager avant la crise du Covid. C'est devenu encore plus dur d'être manager.
C'est ce qu'elle expliquait très bien Agnès Perrin-Turenne. C'est de dire qu'aujourd'hui, les managers, ils sont complètement perdus parce que d'abord, les salariés, ils n'ont pas envie de revenir au boulot. Donc, comment vous les faites revenir? Et ben, ça fait partie aussi désormais de votre rôle. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'encadrements. Il n'y a plus d'encadrement. Enfin, je caricature, bien sûr. Mais l'encadrement, il ne sait plus comment s'y prendre parce que les règles ont complètement changé.
Tout le monde n'est pas fait.
Je trouvais que c'était intéressant.
C'est vrai, tout le monde n'est pas fait pour être manager en 2024. Il faut quand même.
Ce qui est pas très grave, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui étaient managers et qui, de toute façon, n'étaient jamais faits pour être
manager. On n'aurait jamais dû être manager.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que ça, c'est un truc français. C'est-à-dire, on met comme manager des gens qui sont techniquement les plus compétents. Parce que on pense que c'est de là que vient leur légitimité par rapport à ceux qui vont devenir
leurs
inférieurs. Alors qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être très bons techniquement et qui peuvent être des managers absolument formidables. Et ça, c'est plutôt une approche à l'anglo-saxonne. Mais nous, on veut des techniciens comme managers. Donc voilà, ça n'a jamais
les grands sportifs,
ça n'a jamais beaucoup marché.
Les sportifs, quand même, ils sont soumis à des règles très très strictes.
Faut rapprocher le monde du sport et du management ou pas, Bruno? Comment est-ce que vous regardez ça?
Notamment chez les hauts fonctionnaires. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous qui avez été haut fonctionnaire.
Le haut fonctionnaire, j'ai pas vraiment d'idée, mais par contre, je connais quelqu'un qui devrait aller peut-être chez Tony Parker, c'est Ursula von der Leyen. Parce qu'il y a un truc dans le traité qui s'appelle le principe de collégialité qui fait que tous les commissaires doivent être traités bien, et tout ça est une équipe au nom de l'Europe, etc. Et voilà. Alors elle a une conception du sport plutôt, je sais pas.
Verticale, on va dire.
Voilà.
On dit ça poliment, hein, verticale.
Voilà. Et effectivement.
Elle est plutôt alors, dans la course au solitaire, elle.
Voilà. Et comme en plus, techniquement, elle est pas bonne, ça fait beaucoup.
Non mais c'est vrai que c'est le nouveau style de management qui colle à l'époque. Si vous voulez, il y a eu plusieurs grandes époques, mais on disait grosso modo dans les années 70, pendant les 30 Glorieuses, en fait, c'était pas compliqué de faire des affaires. Donc c'était les managers, on appelait ça les grosses baleines, c'est-à-dire que c'était des trucs inertes, etc. Donc c'est dit, Puis après est arrivé ce qu'on a appelé, enfin ce que les spécialistes du management appellent l'ère des requins, c'est-à-dire à partir des années 80, plus de concurrence, machin et tout. Et là, en fait, l'image maintenant de l'organisation de l'entreprise, c'est plus les baleines, c'est plus les requins, c'est le banc de poissons. C'est-à-dire en gros, c'est comment l'entreprise doit se comporter finalement comme un banc de sardines, c'est-à-dire avec des individus qui, sans qu'on comprenne vraiment très bien pourquoi, au même moment vont faire la même chose, aller dans la même direction, etc. Et c'est pour ça qu'objectivement, ça c'est ce qu'on a vu au moment du Covid, hein, c'est-à-dire comment chacun de son côté se comporte pour aller dans le sens de l'intérêt général de l'entreprise. Bon. Et c'est pour ça que des choses, moi j'étais le premier à trouver que, par exemple, des choses comme la raison d'être était un gadget total. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, avec cette raison d'être qui était comme un squelette finalement de leur organisation et de leur stratégie, bah rien qu'avec ça, vous aviez des tas de gens qui se comportaient finalement bien avec une certaine marge d'autonomie et en prenant des décisions qui allaient dans le sens du collectif. Donc ça, c'est le 21e siècle, les années 2020, le banc de poissons.
Ça a marché, hein, son truc à Tony Parker, hein, je vous le dis.
Oui, moi je pense que ça a marché très fort. Oui, hein, oui. En tout cas, c'est intéressant encore.
Bon. Michel Barnier, donc, sur le terrain ce matin, qui faisait le service après-vente avant l'heure de son budget qui est présenté ce matin en Conseil des ministres, en ce moment au Conseil des ministres. Je veux un effort juste et équilibré. Écoutez Michel Barnier ce matin dans la Vienne.
Des efforts à faire dans le cadre du budget social, des efforts à faire dans le fonctionnement de l'État, débureaucratisé. Et puis, nous allons demander un effort à un certain nombre d'acteurs importants qui ont d'ailleurs porté la croissance et l'économie vers l'avant en réduisant le chômage. Des très grandes entreprises qui font plus d'un milliard de chiffre d'affaires ou des contribuables fortunés qui peuvent temporairement, exceptionnellement, de manière limitée, faire un effort. Nous allons faire appel à tout le monde. Il faut que cet effort soit réparti équitablement et juste.
Alors, effort juste et équilibré. Est-ce qu'il n'est pas en train de changer un petit peu de disque, là, Michel Barnier ? Parce que juste à présent, il a insisté bien sur le fait qu'on demandait un effort aux plus riches, les particuliers les plus riches, les entreprises les plus riches. Et là, certains disent, en fait, on se demande dans quelle mesure il n'a pas sous-pesé volontairement le poids des impôts, finalement, dans l'effort qui va être réclamé aux Français.
Mais là, c'est un virage sur l'aile absolument incroyable. C'est-à-dire que là, il revient complètement sur ce qu'il a dit avant. Donc, on va rentrer dans le détail, j'imagine, mais c'est quand même assez surprenant parce qu'on était sur juste les plus riches, ne vous inquiétez pas. Oui. Puis là, on a vu que ça montait, la gradation était de plus en plus forte. Puis tout d'un coup, là, il dit, en fait, tout le monde va payer.
Oui.
Donc, c'est un peu bizarre c'est une forme de reniement quand même par rapport à ce qu'il a dit il y a 8 jours.
D'un seul coup, c'est plus là. Vous êtes d'accord avec ça? Ça ne prend pas en compte ce qu'il nous dit, ce qu'on nous a présenté, notamment les taxes sur l'électricité, les allègements de charges qui sont supprimés sur les entreprises. On a l'impression, certains commencent à dire, non, en fait, les hausses d'impôts, ça ne va pas être 20 milliards, ça va être 24, 25 milliards, en fait, grosso modo. C'est ça, aujourd'hui, l'idée. Hein.
C'est surtout que ce que je trouve fascinant, c'est qu'en fait, alors derrière un contexte politique qui paraît différent de ce qu'on a connu par le passé, c'est vrai que c'est quand même inédit d'avoir eu 15 jours pour faire un budget.
Ouais.
C'est inédit d'avoir un Premier ministre qui n'a pas de majorité, etc., etc. On retrouve quand même exactement la même scénographie que chaque fois qu'on a dit que la France était dans une situation budgétaire difficile. Mais vous pourriez retrouver les mêmes citations, les mêmes scènes, les mêmes séquences se reproduisent régulièrement depuis le « Oh là là, les comptes nous réservent de mauvaises surprises, il va falloir finalement réduire la dépense et augmenter les impôts plus que prévu », jusqu'à les think tanks qui y vont de leurs propositions de réduction. Alors c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que comme personne ne fait rien et qu'aucune mesure n'est appliquée, les préconisations de l'Institut Montaigne depuis 10 ans sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire que les
150 milliards... Ah bah donc ils ont présenté l'autre jour, il
n'y avait rien d'original. Ben oui, et donc ça fait partie du jeu. Et puis là, finalement, les phrases toutes faites, les opposants qui étaient ministres quelques semaines plus tôt, dont et on a l'impression qu'ils n'ont jamais été au gouvernement et qui disent « Oh, mais il y a trop d'impôts et pas assez de réformes !» Et puis, jusqu'à des phrases comme « Effort juste et partagé
oui. »
Vous pouvez cette phrase la mettre
là, y a un
dans la bouche
comme,
de tous les premiers ministres. Parce que la réalité, c'est qu'en gros, il y a ceux qui s'attendaient à en prendre plein la figure, qui en prennent vraiment plein la figure. Il y a ceux à qui on avait dit qu'ils seraient épargnés et qui ne sont pas tant que ça épargnés.
Donc,
et
là, on pense
aux classes moyennes, à ceux qui travaillent et aux PME.
Aux Français.
Il y en a quelques-uns qui ne s'en sortent pas trop mal. Mais à part ça, effectivement, c'est business.
Donc, on est dans la même popote.
C'est déficit as usual. Quoi.
Business as usual. Est-ce que vous êtes. Ce qui est l'idée, Bruno, pour vous, c'est que quand Michel Barnier dit on parle d'un effort à 60 milliards, on dit 60 milliards, mais lui sait pertinemment qu'il ne pourra pas faire passer cet effort à 60 milliards. Est-ce que quand on dit 60 milliards, c'est pour aller en récolter 30, 40 milliards d'efforts sur l'an prochain? Est-ce que ça va être la contrepartie aux quelques 49,3 qu'on va devoir balancer pour faire passer ce budget, finalement?
C'est très probable. Moi, je ne suis pas dans la tête de Michel Barnier, mais ayant été moi-même budgétaire au ministère des Finances, en général, quand on veut 50, on demande 100, etc., etc. Mais je suis très d'accord avec ce qui a été dit. Il n'y a pas un mot qu'il a prononcé qui n'aurait pas pu être prononcé par un Premier ministre de la Ve République depuis 40 ans. C'est la succession des mots comme ça, suivie d'aucun effet, qui nous amène dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Puis ça prouve une autre chose, c'est que le macronisme, il est toujours là. Ce n'est pas du tout une rupture par rapport à Emmanuel Macron, tout ça. Et ça ressemble d'ailleurs à Emmanuel Macron.
Mais ça ne peut pas être.
Mais ça ne peut pas, exactement. Bah, ça ne peut pas l'être puisqu'il n'y a pas de majorité aujourd'hui.
Oui, mais enfin, sauf qu'il n'a pas besoin finalement. Il a besoin de personne parce qu'il a dit qu'il faisait un 49-3, sauf si effectivement il a une motion contre lui. Mais je ne pense pas qu'il l'aura tout de suite. En tous les cas, selon quoi les déclarations de Marine Le Pen. Donc je pense que c'est un petit peu juste peut-être pour dire qu'il ne fera rien. Il faut d'abord il faut qu'on voit le budget tel qu'il va sortir de ces discussions, parce qu'il y a quand même, c'est 6 semaines de discussion. Oui. Après, il y a le Sénat, après ça revient.
Au moins 7.
Et puis il attend des amendements gouvernementaux, okay, et des amendements surtout des parlementaires. Donc, et attendons de voir sur les économies, parce que là où je vous rejoins, c'est que pour l'instant, on n'a rien.
Les hausses d'impôts sont plutôt bien documentées.
Les hausses d'impôts sont bien documentées.
Oui. Pour rebondir sur ce que disait Bruno, c'est les baisses de dépenses. On voit aussi un peu ici ou là sur l'apprentissage.
Mais il y a quand même
les exonérations de charges.
C'est pas un loup, mais c'est une complexité. C'est-à-dire que il faut bien voir que comptabiliser comme baisse de dépenses, vous aurez la réduction de beaucoup de niches fiscales.
Et voilà.
Puisqu'il faut rappeler qu'en termes comptables, quand les niches fiscales, c'est-à-dire les avantages fiscaux auxquels renonce l'État, sont considérés comme des dépenses.
Oui.
Donc, en fait, qui pour les uns sont considérés comme des impôts. C'est-à-dire que c'est amusant. D'ailleurs, si vous lisez le budget, vous pouvez le lire avec 30% des dépenses et 70% de réduction des dépenses, pardon, et 70% de hausse d'impôts, ou 70% de baisse des dépenses et 30% de hausse d'impôts. Donc voilà, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans, parce que dans les dépenses, alors à part quelques ministères qui sont perdants, la Sécu, on sait que c'est à peu près documenté, on va demander 5 milliards aux collectivités locales, on va en demander combien à la Sécu, 15 à peu près.
À peu près 15, administration, oui, à peu près.
Voilà,
peu près.
Et on va demander 10 aux administrations centrales. On voit qu'il y a des ministères qui seront perdants.
Écoutez comment chaque camp essaie de mettre ses lignes rouges. Même la France insoumise, qu'on n'entendait pas trop là, mais qu'on va réentendre, qui a dit ce matin, pour nous, le nerf de la guerre, c'est la fiscalité. Écoutez ce que disait Emmanuel Bompard, tiens, pour LFI.
Est-ce que l'outil, c'est le fait de dire on va indexer les pensions sur l'inflation, uniquement les petites pensions et pas les grandes? Je pense que c'est pas le bon outil. Le bon outil pour organiser le partage des richesses entre les plus hauts revenus, que ça soit sous la forme de salaire ou que ça soit sous la forme de pension de retraite, et les plus bas, c'est la fiscalité. Il y a notre possibilité pour mettre à contribution, y compris les plus riches des retraités, ça s'appelle l'impôt sur le revenu, et ça nécessite d'augmenter des tranches sur l'impôt sur le revenu pour que les plus hauts revenus, que ça soit sous la forme de pension de retraite ou que ça soit sous la forme de salaire, soient mis davantage à contribution.
Voilà, la France insoumise qui elle aussi commence à tracer ses lignes rouges. Voilà, tout ça nous promet une discussion budgétaire quand même assez soutenue sous l'œil des marchés financiers, puisqu'on rappelle que l'agence Fitch notamment va commencer à se prononcer, va être la première à se prononcer demain soir sur la dette française. Vous aurez Moody's ensuite fin octobre.
Et fin novembre,
Standard & Poor's. Et apparemment, personne ne se fait d'illusions. Tout le monde a l'air d'avoir déjà acté qu'on allait se faire dégrader une nouvelle fois.
Ah non, je sais pas. Non, on l'avait déjà dit ça la dernière fois.
C'est vrai qu'à chaque fois, ça passé.
Donc, je pense qu'il faut être prudent. Honnêtement, on ne sait pas encore. Pour ça, je vous disais, attendons de voir. On ne sait pas grand-chose. On a le budget, mais on ne sait pas du tout comment ça va être exécuté.
On a quand même quelques
lignes. Non, mais attends, bien sûr, on a des
lignes directrices. C'est pour ça que je suis moins prudent que ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même une rupture avec Macron qui n'est pas de l'ordre de celle qui s'est produite entre Fillon et Hollande.
Oui.
Ah oui.
Bien qu'il y ait quand même eu une certaine continuité, parce que c'est Fillon qui avait commencé à réaugmenter les impôts et c'est Hollande qui a continué.
Oui,
moi, je suis désolé. Sur les réductions d'impôts, etc., il y a quand même beaucoup de retours en arrière. Prenez l'impôt sur les sociétés, prenez tout ça. Oui. Et donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de mauvais signaux qui sont envoyés au monde de l'entreprise et au monde
c'est l'espace que joue
des affaires, et que ça va peut-être pas coûter aussi cher que quand Hollande a brandi sa taxe à 75%, mais ça va produire des dégâts quand même sur le comportement d'investisseurs, d'entrepreneurs, et ça va nous coûter.
Mais Bruxelles commence à parler de première discussion prometteuse quand même, Bruno Alomar, à ce stade. Quoi. Voilà. Est-ce qu'on dit ça poliment ou est-ce que...
on verra bien, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait 23 ans que l'euro est là, on a respecté le pacte de stabilité un an.
Un peu plus.
Ou deux.
Non, quelques années, un peu plus, 3-4 ans. Quoi.
La grande leçon du fonctionnement de l'euro et de la zone euro, c'est que le pouvoir fédéral monétaire, il existe, le pouvoir fédéral budgétaire, il n'existe pas. Donc, l'Europe, en réalité, ne peut nous forcer à rien. À rien, et elle ne nous forcera à rien. Ce qui nous forcera peut-être à quelque chose, c'est le fait que les marchés financiers, qui eux sont sans pitié, et eux n'ont pas besoin d'un traité pour porter notre dette aujourd'hui, je crois qu'on se finance encore plus mal, entre guillemets, qu'un pays que j'aime beaucoup, qui est l'Espagne, ils vont faire les choses.
L'Espagne, oui.
Mais le danger, il n'est pas institutionnel européen. Le danger, il est financier.
Oui.
Et par ailleurs, ce qu'on sait quand même, pour compléter ce que disait Madame Chevrillon, c'est que on sait quand même que on est un grand pays qui n'a plus le contrôle de ses finances publiques en réalité. Depuis 2-3 mois, on le sait, ça fait partie des choses qu'on a découvert effarées.
Allez, voilà pour les grandes lignes de ce budget qui seront dévoilées tout à l'heure aux alentours de 20h. J'accueille Mathieu Pechberti qui nous regarde depuis quelques minutes, qui nous attend et qu'on va accueillir. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
Pour dire un mot, parce que dans le cadre de ce budget dont on aura les grandes lignes tout à l'heure à 20h, il y a des secteurs qui vont souffrir. Hein. L'aérien va souffrir, les banques, l'assurance, l'auto va souffrir, mais il y a un
même
secteur...
les jeux, contrairement à ce les que jeux aussi. Stéphane Pallez, la présidente de la FDJ.
Mais alors attendez, parce que le secteur qui va vraiment souffrir, c'est le secteur de l'énergie, Mathieu. Ça va être saignant, là.
Hein. Oui, en tout cas, les consommateurs, et c'est là où c'est aussi un petit peu contradictoire, pour revenir un peu à ce que vous disiez en début de débat, sur ce qu'avait annoncé Michel Barnier, en tout cas faire attention aux classes les plus modestes. Là, il y a un petit calcul de coin de table, mais on va arriver à quasiment 10 milliards d'euros de prélevés sur l'ensemble du secteur de l'énergie et en gros de l'électricité, pour faire très simple. D'abord par une augmentation de taxes sur l'électricité. Alors certes, il y a un retour à la fiscalité d'avant-crise qui avait été baissée en raison de la flambée des prix d'électricité. Mais le gouvernement, voyant que on se dirigeait vers une baisse de la facture de 15%, s'est dit il y a encore un petit peu de marge pour aller gratter. Et donc, on va se retrouver avec une fiscalité qui va être encore plus élevée que ce qui existait avant la crise énergétique. Et donc, on va avoir 6-7 milliards d'euros de prélevés sur les factures. Et donc là, évidemment, c'est monsieur et madame tout le monde. Donc, ce sont aussi les plus modestes qui vont n'ont pas payé plus, mais en tout cas leur facture baissera beaucoup moins que prévu,
voilà, ouais.
Et on atterrira sur une facture.
C'est un système de c'est l'équivalent de la TIPP flottante, en fait. C'est la taxe sur l'électricité flottante.
La TIC, c'est-à-dire
que
c'est pas
plus, c'est vrai. Plus le prix de l'électricité va baisser sur les marchés.
C'est vrai.
Plus l'État va gratter pour.
Ouais, c'est exactement ça.
Très bien vu.
Voilà. Et donc là, on va atterrir sur une facture.
Alors, elle avait baissé, comme Mathieu vient de le dire.
Non, la facture n'a pas baissé. La facture a été gelée pendant la crise. Ensuite, elle a augmenté. On s'est quand même pris 30% de hausse en un an et demi, là. Enfin, tout le monde l'a oublié, mais on s'est pris 10%. Oui, mais la facture in fine pour le consommateur, elle a quand même réaugmenté, ce qui est assez normal, entre guillemets. Mais donc là, on va atterrir sur une facture en février. C'est le seul chiffre qu'il y a vraiment dans le budget, hein, qui est sorti, enfin, qui va sortir dans une heure, mais qu'on a déjà un petit peu sous les yeux. C'est moins 9%. Donc, c'est pas rien, et c'est bien, mais on était quand même sur moins 15. Donc voilà, il y a 6-7 milliards d'euros là-dessus, et puis le gouvernement va prélever quand même, si on descend un petit peu le compte de résultat, on va dire, de la société EDF, va aussi prélever au moins 700 millions d'euros de ce qu'on a appelé la contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises, donc la surtaxe d'impôt sur les sociétés, environ 700 millions d'euros pour EDF, et puis enfin 2 milliards d'euros, et c'est encore une fois écrit comme ça dans le budget, de dividendes que EDF versera à l'État.
Un gros dividende exceptionnel.
Voilà, et 2 milliards, d'ailleurs, moi je mettrai un petit billet que ça sera un peu plus élevé que 2 milliards à la fin, à l'arrivée, parce qu'on verra selon les résultats d'EDF, c'est toujours la même chose.
Mais en février, d'EDF qui feront en,
en fonction de la clôture des comptes d'EDF, je pense que ça va augmenter un peu. Je mettrai une petite pièce qu'on sera plutôt proche des 3 plutôt que proche des 2. Mais donc, voilà, donc on est sur une facture quand même 10 milliards d'euros, essentiellement sur la facture, donc les ménages modestes. Donc, voilà, enfin, tout a déjà été dit. Par vous tous, mais donc c'est quand même illustratif, je trouve, de ce budget. Et très contradictoire par rapport à ce qui avait été dit
et
il y a 15 jours.
On reboucle effectivement sur ce que disait Michel Barnier, ce sera un geste, un effort juste et équilibré, donc qui va aussi toucher les classes moyennes finalement. On reboucle sur
On le voit, parce qu'il y a aussi, on n'en a pas encore parlé, mais il y a l'histoire du bonus, malus, sur les voitures.
Oui, puis dans les mesures sociales, il y a des mesures qui vont impacter aussi le budget des classes moyennes.
On aura
s'en tire le mieux, finalement, c'est les retraités qui s'en tirent le mieux.
Oui.
une fois de plus, c'est ça le sous-jacent. Oui, voilà. On n'a pas le temps, il reste 45
il
secondes.
Donc,
ah, oui. Le laïus sur les retraités.
Voilà, c'est le mot de la fin.
On l'a déjà fait, on le refera, ne oui, vous inquiétez pas. Comme ça.
Il est facile.
Allez, voilà. 18h54, c'est terminé. Merci Mathieu Pechberti d'être venu, merci. Emmanuel Le Chypre, merci. Bruno va revenir dans un instant, 19h15, 20h. Edwige, on se retrouve lundi prochain.
Lundi, l'ouverture du Salon de l'Auto.
Eh oui, édition spéciale.
Exceptionnel. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, oui. Et mon autre invité sera Luca de Meo, qui est le patron de Renault, mais aussi de toute l'association européenne de constructeurs automobiles. Donc
oui,
voilà,
absolument.
Les deux grands patrons
de l'industrie auto française. On les écoutera et on débriefera émission spéciale d'ailleurs autour de ce Salon de l'Auto lundi entre 18h et 20h sur BFM Business. Merci beaucoup, 18h55 dans un instant. Le journal, bien sûr, on va revenir sur les grands équilibres de ce budget. Plein d'actu à vous raconter, puis nos experts qui reviennent jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. A tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h sur BFM Business, la deuxième heure de Good Evening en direct jusqu'à 20h. De quoi est-ce qu'on parle ce soir? De ce projet de budget 2025 qui, au moment où nous parlons, est en train d'être examiné en Conseil des ministres avec apparemment des réserves déjà du côté de la Cour des comptes. On va voir ça avec Thomas Asportas, bien sûr, et puis on va parler quasiment que de ça jusqu'à 20h avec nos experts qui reviennent dans un quart d'heure. Qui sera avec nous? Bruno Alomar va revenir, bien sûr. On sera avec la spécialiste de l'opinion Véronique Aessouit et puis avec les économistes Michel Rumi et Frédéric Bocara. Voilà le programme. Très riche. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc ce projet de budget qui est présenté en ce moment même en Conseil des ministres. Bonsoir Thomas Asportas. Ce que vous nous dites ce soir, Thomas, c'est que la Cour des comptes est inquiète du cadrage budgétaire qui a été retenu par ce gouvernement. Que dit exactement la Cour des comptes, Thomas ?
Ce qu'il dit, c'est qu'il regrette très fortement que le gouvernement ne lui ait transmis aucun élément d'information sur les réformes et les investissements dans les années à venir. Parce que sans ces éléments-là, évidemment, la Cour des comptes dit qu'elle parle en l'air et qu'elle ne peut pas évaluer sérieusement le cadrage budgétaire et macroéconomique présenté par le gouvernement. Ça, c'est le premier point de son avis. Ensuite, pour les objectifs en eux-mêmes. D'abord, sur la croissance. Le gouvernement revoit à la baisse sa prévision de croissance potentielle à 1,2% au lieu de 1,35% entre 2024 et 2028. Et ensuite, ça baisse même encore davantage à seulement 1%. Le Haut Conseil dit que ces nouveaux chiffres sont raisonnables, ouais. Donc ça leur convient mieux. Mais ce qui leur pose problème, en revanche, c'est que les prévisions de croissance qui sont inscrites dans le budget, elles sont au-dessus de cette croissance potentielle, puisqu'on est à 1,4% en 2026 et à 1,5% entre 2027 et 2028. Donc décalage entre potentiel de croissance et les chiffres affichés dans le budget. Et même pour l'année prochaine, vous savez qu'on a un objectif de 1,1%, je cite le Haut Conseil, ils disent que cette prévision a paraît un peu élevé, ne serait-ce que 1,1%. Et pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils estiment que ces prévisions, ces chiffres, tablent sur une très forte consommation des ménages, alors que l'épargne est toujours au plus haut, il n'y a aucun signe qui dit qu'on va puiser dans notre épargne. Deux, l'investissement des entreprises, lui aussi, serait à un plus haut historique, alors que l'INSEE nous dit dans une note de conjoncture qui est parue à 17h qu'au contraire, ça recule, et assez sérieusement. Et enfin, c'est basé sur des hypothèses assez favorables sur le commerce mondial.
Et malgré ces hypothèses optimistes, la Cour des comptes est très perplexe sur la réduction et du déficit et de la dette.
Ben oui, c'est ça la double peine. Elle considère que l'objectif de déficit de 5% pour l'an prochain, je cite, présente un risque élevé d'être dépassé. Vous savez que c'est la pierre angulaire du budget de l'année prochaine, ce déficit de 5%. Eh bien, la Cour dit que cet objectif présente un risque élevé d'être dépassé. La France aura en moyenne 5%, pas que pour l'an prochain, mais ce serait la moyenne de déficit d'ici à la fin du quinquennat. C'est le chiffre de déficit 2027, 5%. Ça ne repassait sur les 3% qu'en 2029. Donc ça, c'est pour le déficit. Et pour ce qui est de la dette, elle repartirait fortement à la hausse d'ici à la fin du quinquennat de 6,5 points de PIB par rapport à l'an dernier. Ça ne commencerait à refluer qu'à partir de 2028. Et pour finir, le mal est vraiment profond sur la dette, Guillaume, parce qu'en 2030, la France, elle aurait autant de dettes qu'en 2020, au moment où la crise sanitaire a explosé. C'est-à-dire que 10 ans après le Covid, la France n'aurait pas réussi à faire refluer la dette héritée de la crise.
Merci beaucoup Thomas Asportas. On va écouter justement le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, qui dit en substance, quand on voit ce qu'était l'ampleur du dérapage en 2024, on n'est pas vraiment rassuré pour l'an prochain. Écoutez.
2024 est une année noire pour les finances publiques. C'est d'autant plus inédit que nous ne sommes pas dans une période de crise. C'est plus qu'inhabituel et c'est à la vérité assez inquiétant. C'est un dérapage majeur qui entraîne également une dégradation de nos conditions de financement par rapport à nos partenaires européens. et nous devons être très vigilants à ce que cela s'arrête là.
Voilà, Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes aujourd'hui au Parlement. 19h04, pendant ce temps, ça se confirme, on va se remettre autour de la table pour discuter de la réforme de l'assurance chômage. D'après nos infos, la ministre du Travail a demandé aux partenaires sociaux de reprendre le dialogue. Elle leur a surtout demandé, pour être honnête, de trouver des économies supplémentaires. Caroline Morisseau.
Patronat et syndicats vont bien devoir réaliser des économies supplémentaires sur l'assurance chômage. 400 millions d'euros par an, soit 1,2 milliard d'euros au total sur les 3 ans de la convention UNEDIC. Et c'est en plus des 400 millions d'euros attendus grâce au décalage de 2 ans de l'âge à partir duquel les seniors bénéficient d'une durée d'indemnisation plus longue. On est certes très loin des 3,5 milliards d'euros attendus par la réforme Attal qui vient d'être enterrée. Mais patronat et syndicats doivent malgré tout trouver une solution et tous ont déjà une idée en tête, s'attaquer à ces salariés frontaliers qui travaillent et donc cotisent en Suisse ou au Luxembourg mais qui, une fois au chômage, sont indemnisés par la France, avec à la clé une facture de 800 millions d'euros par an. On ne peut pas supprimer ce dispositif qui relève d'accords entre États membres, mais on peut l'aménager, nous dit un responsable patronal, en obligeant ces chômeurs à reprendre plus rapidement un emploi, même s'ils sont moins bien rémunérés, de quoi réduire la facture.
Caroline Morisseau, alors tenez, au moment où en France on s'apprête à présenter le budget 2025, on voulait vous parler de ce que fait le Portugal, qui présente d'ailleurs lui aussi aujourd'hui son projet de budget, avec une mesure là-bas un peu particulière, un plan de réduction d'impôts, mais seulement pour les jeunes adultes. Mathilde Chaminade.
Moins d'impôts sur le revenu pendant les 10 premières années de la vie active. La première année, les jeunes en seront complètement exemptés, puis le taux augmentera progressivement. Cette mesure pourrait coûter jusqu'à 650 millions d'euros par an, mais le parti au pouvoir pense que c'est nécessaire pour retenir les talents. Le Portugal a le taux d'émigration le plus élevé de l'Union européenne. Une émigration jeune, les 2/3 des émigrants ont entre 15 et 35 ans, et qualifiée, la moitié est diplômée du supérieur. Si elles sont adoptées, ces réductions d'impôts permettraient de retenir plus d'étudiants portugais et pas seulement, les étrangers pourront en bénéficier aussi. Mais la fiscalité n'est pas le seul problème auquel sont confrontés les jeunes au Portugal. Les salaires restent moins élevés que dans la majorité de l'Union européenne. Le Fonds monétaire international avertit que les effets sur l'émigration d'un traitement fiscal préférentiel pour les jeunes sont incertains.
Mathilde Chaminade, dans l'actualité des entreprises, d'abord une mauvaise passe pour IKEA. Le groupe nous a dit ce matin que sur son exercice annuel qui s'est achevé fin août, eh bien le chiffre d'affaires a baissé d'un peu plus de 5%. Le groupe a dû baisser ses prix pour s'adapter à la crise du pouvoir d'achat, mais aussi il a dû subir le coup de frein du marché de l'ameublement. C'est un proche de Vincent Bolloré qui va prendre une place stratégique chez Hachette Livre, 3e éditeur mondial. Il s'agit de Jean-Philippe Thierry, qui devient directeur général délégué du groupe. C'est Arnaud Lagardère, bien sûr, qui reste PDG d'Hachette Livre. Et puis, il n'avait pas encore quitté la Russie. Unilever, géant mondial de l'alimentaire, de l'hygiène, des cosmétiques, a finalement décidé de s'en aller. Il va vendre sa filiale locale à un acteur russe, Unilever, qui possède notamment 4 usines dans le pays. 19h07, on va sur les marchés. Les marchés, tout de suite. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé aujourd'hui ?
On a été prudent, hein, avec un CAC 40 qui termine sur une petite baisse, moins 0,24%, 7541 points. Le catalyseur du jour, c'était l'inflation américaine, mais qui est un peu supérieure aux attentes. Et ça a provoqué pas mal de volatilité autour des marchés de taux, et notamment le 10 ans américain, qui a même grimpé au-delà de 4,1%. Là, on descend à 4,08, mais on sent un petit peu de nervosité, hein, de la part des marchés. La plus forte hausse sectorielle, c'est quand même le secteur de l'énergie qui s'est bien bien comporté. Alors à noter que le baril de Brent se rapproche à nouveau des 79$. On est à 68,90 en ce moment. Mais les plus fortes hausses du CAC 40, on le voit, Engie plus 1,14, 15,57€. Total Energy aussi plus 0,7 à 62,41. Et Veolia prend 0,8% à 29,49. À la baisse, Téléperformance, hein, moins 2,76 à 86,54€. Du côté du SBF 120, on a aussi quelques performances à signaler. Worldline, hein, qui s'est bien bien comporté, le titre a gagné gagné 2,9% à 6,54€. Puis la score qui a gagné 2,8% à 20,54€. Les marchés sont plutôt rassurés, se disent que tout ce qui est remboursement en matière de catastrophes naturelles, alors qui s'amoncèle en ce moment, sera un petit peu moins élevé que prévu. Donc du coup, on était plutôt positif sur la valeur. Les marchés à la baisse du côté du CAC 40, on a retrouvé Eurofins Scientifique aussi, qui a perdu 2% à 54,96€. C'est un titre qui marche vraiment plus bien en ce moment. Unibail Rodamco Westfield dans la foncière, qui perd 1,7% à 74,72€. Puis à noter une valeur vraiment cyclique, hein, liée aux cycles économiques, c'est Schneider Electric aussi, qui a perdu 1,3% à 239,15€. Le CAC donc moins 0,24, 7541 points. Coup d'œil sur les autres marchés européens, on a fait quasiment pareil, hein. Le DAX à Francfort moins 0,23%, moins 0,25% pour l'Eurostox 50. Et puis un dernier coup d'œil sur l'euro-dollar, on est à 1,0927.
Merci beaucoup Antoine, on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. C'est la mi-séance, le Dow Jones qui perd 0,4%, 42339 points. L'indice Nasdaq qui perd lui 0,1%, 18276. Je vous rappelle qu'on sait des ministres en ce moment qui examinent le projet de budget 2024. On aura les gros arbitrages pour 2025 à partir de 20h, édition spéciale à partir de 20h pour décrypter ces grands enseignements. Tout de suite, c'est la campagne américaine, 19h09.
USA 2024, la présidentielle.
Sous les radars de cette campagne qui s'accélère, bonsoir Benoît Abdedaïm.
Bonsoir.
On va parler ce soir de l'aile gauche du Parti démocrate qui prend fait et cause pour l'autorité américaine de la concurrence. Il est encore question des dons de campagne et là, Kamala Harris est mise en garde clairement, Ben Aouda.
Oui, la chef de l'antitrust, Lina Khan, a été nommée par Joe Biden. Elle devra impérativement rester en poste si Kamala Harris l'emporte. C'est non négociable. Une élue démocrate, figure de proue des progressistes, fait du sort de la présidente de la FTC une cause éminente de combat politique. La députée Alexandria Ocasio-Cortez prend l'engagement que si quelqu'un veut écarter Lina Khan, il y aura bagarre, je la cite. Pour la parlementaire new-yorkaise, la présidente de l'autorité de la concurrence depuis 2021 se place, elle, du côté des travailleurs. Et c'est à ce titre qu'il faut défendre son maintien. Une publication de gauche à Washington écrit que Lina Khan a une cible dans le dos. Il s'avère que d'importants donateurs et soutiens du parti démocrate réclament son départ car Lina Khan porterait atteinte à la bonne marche des affaires, voire elle n'y comprend rien. L'un d'eux, un entrepreneur en série qui s'est lancé dernièrement dans la distribution de médicaments à bas prix, juge que la chef de l'antitrust est en train de faire fausse route en s'en prenant aux sociétés d'intelligence artificielle. Certains des contempteurs de Lina Khan affirment maintenant que la vice-présidente Harris n'écarte pas de leur donner gain de cause. Selon leur dire, la candidate démocrate pourrait ainsi être disposée à changer les têtes à la FTC, mais aussi à la SEC, le régulateur boursier.
Et en quoi le maintien ou l'éviction de cette chef de la FTC pourrait influer sur la prochaine présidence finalement?
Il faut voir que chaque courant démocrate durant cette campagne considère qu'il en va de l'orientation idéologique du mandat présidentiel. Un sénateur de premier plan qui se revendique démocrate socialiste soutient que Lina Khan est la meilleure chef antitrust de l'histoire moderne. Les centristes du parti entendent eux signifier au monde des grandes entreprises que l'aile gauche ne façonnera en aucun cas une présidence Harris, comme ils ont pu le tenter au début de celle de Joe Biden. Ne pas reconduire la juriste sourcilleuse Lina Khan serait alors perçue comme une volonté de desserrer la contrainte réglementaire. La présidente de la FTC ne paraît pas encline, elle, à baisser les bras. Elle s'est fait remarquer en 2017 avec un article académique sur la manière dont Amazon userait du cadre légal pour entraver la concurrence. Au nombre de ces très gros sujets en 2025, il y a le rôle des entreprises dominantes dans l'intelligence artificielle qui fausserait l'innovation, ce à quoi un investisseur en capital risque qui se propose de rejoindre une administration Harris soutient qu'en voulant démanteler les grands noms de la tech, la FTC limiterait la capacité des États-Unis d'être les meilleurs au monde dans l'IA et par là même l'antitrust mettrait ni plus ni moins qu'en péril la défense nationale. Ce qui ajoute à la complexité politique de ce dossier de la chef de la FTC, c'est que le colistier de Donald Trump, le sénateur J.D. Vance, l'a appuyé publiquement. À deux reprises, il a salué son approche vis-à-vis de la Big Tech, à telle enseigne que l'on peut maintenant se demander si cette progressiste Lina Khan n'aurait pas davantage les mains libres avec un président Trump qu'avec une présidente Harris.
Voilà, Lina Khan, la présidente de la FTC, sous les projecteurs dans cette campagne. La campagne américaine avec Ben Aouda Abdedaïm tous les soirs, 19h13. Merci Ben Aouda.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h17, ils sont là, nos experts, comme tous les soirs, bien sûr, pour refaire l'actu du jour. On va se concentrer sur ce budget dont, je vous rappelle, on aura les grands arbitrages à 20h. On décryptera ça en direct, évidemment, sur BFM Business pendant 10-15 minutes en direct, édition spéciale tout à l'heure. En attendant, parlons de ce qu'on sait, mais dont on ne sait pas encore. On va parler de ça avec nos experts. Véronique Reissoul, bonsoir Véronique. Bonsoir. Bienvenue, présidente de Backbone Consulting, spécialiste de l'opinion. Michel Rouimit avec nous. Bonsoir, bonsoir Michel. Économiste, partenaire de Lévy Capital Partners. Frédéric Bocara, bonsoir.
Bonsoir Guillaume. Bonsoir.
Économiste, membre des économistes atterrés. Bruno Alomar qui est revenu. Rebonsoir Bruno, directeur général de New Horizon Partners, ancien haut fonctionnaire à Bruxelles. Écoutons Michel Barnier qui faisait un petit peu de terrain ce midi. Et qui a répété qu'il fallait un effort conséquent, 60 milliards d'euros. Il veut un effort juste et équitable. C'est la petite phrase qui nous a fait tiquer. Écoutez Michel Barnier.
Des efforts à faire dans le cadre du budget social, et des efforts à faire dans le fonctionnement de l'État, débureaucratisé. Et puis nous allons demander un effort à un certain nombre d'acteurs importants, qui ont d'ailleurs porté la croissance et l'économie vers l'avant, en réduisant le chômage. Des très grandes entreprises qui font plus d'un milliard de chiffre d'affaires ou des contribuables fortunés qui peuvent temporairement, exceptionnellement, de manière limitée, faire un effort. Nous allons faire appel à tout le monde. Il faut que cet effort soit réparti équitablement et juste.
Voilà, réparti équitablement et juste. Et là, on s'est tous dit, tiens, est-ce qu'il n'est pas en train un petit peu de changer de disque? Parce que jusqu'à présent, les efforts, ils étaient pourtant essentiellement sur les grosses entreprises, les gros contribuables. Il n'y a pas un changement de discours, là, Véronique, dans ce que dit...
Il y a un petit changement de discours, simplement. Après, nous avoir dit que la situation était très grave.
Ouais.
Qu'il y avait peut-être une solution avec simplement les super-profits et les riches, ce qui convient bien, parce que je vous rappelle que 88% de la population française est d'accord avec le principe. Ben là, ils commencent à préparer un peu le... Finalement, ça va être plus, parce que quand on regarde les expressions et ce que l'opinion publique comprend quand on dit justice fiscale ou juste et équilibré, en fait, ils entendent ça va être pour tous. Donc c'est une façon de dire, oui, on va tous y passer, mais en même temps, il y a un sondage qui était sorti la semaine dernière qui disait que 71% des Français pensaient bien que finalement, ces coupes budgétaires, ça les concernerait d'une façon ou d'une autre, soit en impôts, soit en manque à. Donc globalement, il n'y a pas non plus une immense surprise. C'est plus utiliser le bon mot, un mot qui résonne comme il va falloir y passer.
Et certains disent, Michel Barnier a en fait sciemment sous-estimé le poids des hausses d'impôts. On dit par exemple les hausses de taxes sur l'électricité, elles ne sont pas comprises dans les 20 milliards de hausses d'impôts dont on nous parle. Les baisses d'allègement de charges pour les entreprises, 4 milliards, c'est pas compris. Donc certains vous disent, là, en fait, c'est pas 20 milliards d'euros de hausse d'impôts, ça sera de l'ordre 24-25 milliards, Frédéric. C'est ce que certains commencent à dire. Donc le rapport, deux tiers, un tiers...
D'abord,
on n'est pas vraiment là-dedans, quoi, finalement.
Si je peux revenir sur la déclaration, je pense qu'il change qu'en partie, puisqu'il avait commencé... à détourner les mots en disant on va faire de la justice, donc de la répartition. Là, il détourne un peu, il continue. Mais en fait, l'effort, il faudrait le faire pour se développer et pas pour se couper un bras. Je l'ai dit plusieurs fois ici, c'est l'erreur. Effectivement, on sous-estime la gravité de la situation de la France. Et pourquoi je suis dubitatif quand vous dites les recettes? Parce qu'en réalité, on est au bord de la récession. Et si jamais on a une récession, ce ne sera pas du tout 25, 26, 27 milliards.
Au bord de la récession, donc, on va faire 1% de croissance cette année, Frédéric.
On parle du budget 2025.
Mettez bien le micro.
On parle du budget 2025.
Ouais.
Donc, les 1% de croissance, c'était 2024. Pour 2025, c'est la récession qui nous pend au nez. C'est l'année de tous les dangers.
Ouais.
Et donc, les recettes, c'est pas du tout sûr que ce soit ça. Ça peut être beaucoup moins. Parce qu'effectivement, on se coupe un bras. Et il renforce. Et ça va aller. On va avoir double peine. En réalité, il faudrait l'effort pour se développer. Même Draghi, il dit qu'il faut dépenser
plus. Même Draghi le dit. Ouais.
Même Draghi le dit. Bon. Et là, c'est moins 40 milliards, c'est-à-dire le double de ce qu'on a fait le coup d'avant.
Oui.
Et puis, je trouve que le discours sur la bureaucratisation de l'État, ça propose aux médecins de continuer à faire du Tetris pour organiser les lits, parce que le back-office, on ne le voit pas. Mais les médecins, il faut qu'ils puissent être libérés de ça.
Alors, Michel Rumi, est-ce que vous dites de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de mettre à contribution, pas l'ensemble des Français, mais une grande partie des Français, ce qui n'est pas un mythe là
aujourd'hui. Dans cette déclaration on va dire que la politique sera juste et équitable, c'est tout simplement la philosophie du Code général des impôts. En fait, c'est qu'est-ce qu'un impôt juste et équitable. Donc, il s'inscrit dans la droite ligne, il ne bouge pas. La question, c'est qu'on ne le connaît pas. En fait, il est juste, mais pas forcément équitable. Oui, équitable, mais pas forcément juste. Donc, la question, on est là. Donc, à mon sens, c'est une formule pour faire parler, mais on n'a pas la solution. Donc, maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Je rejoindrai Frédéric, tu es dans la mesure où, aujourd'hui, on va couper. Simplement, faut pas oublier que l'année prochaine, l'Allemagne est en récession.
Oui.
Donc, c'est un autre particulier, un partenaire particulier pour nous. Et en même temps, si on a un ralentissement, ça va poser des problèmes. Donc, c'est vrai que peut-être qu'on aura une amélioration des finances publiques en 2025, mais on va se retrouver un mur en 2026.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas en année civile que ça marche, mais ça va tourner aux alentours de 25-26. C'est pas aussi idyllique. Et le grand problème, c'est au-delà de ça, c'est à supposer qu'on arrive à l'équilibre aujourd'hui, c'est en 2026, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Et donc on risque d'avoir
les mêmes recettes sur l'impôt sur les sociétés. On vous explique déjà que rebelote, alors peut-être pas dans les mêmes proportions, mais pour 2026.
Oui, oui.
Donc on est parti pour deux heures d'effort.
Mais ce qui est dit, il faut bien que les gens comprennent quand on marche l'impôt sur les sociétés. Quand il y a une récession, que les entreprises ne font pas de bénéfices, elles touchent pas, elles payent pas moins 1% d'impôt, elles payent zéro. Donc elles passent de 1 milliard à zéro. Et donc ça peut s'effondrer d'un coup, les recettes, y compris en 2025. C'est ça ce que dit monsieur,
oui,
hein.
Oui, oui,
pour que les gens comprennent bien.
L'idée, et je reviendrai en même temps, c'est que le Haut Conseil des Finances Publiques disait que les prévisions étaient optimistes.
Oui.
Donc c'est là
très
aussi.
Très optimiste, même, voilà,
oui,
c'est ça ce que
je veux dire. Oui, on va rester de voix aussi.
Donc, non, mais au-delà de la croissance potentielle, voilà, du pays dans les prochaines années, c'est
oui,
ça en fait.
C'est ça. Et le grand problème, on retombe toujours sur les histoires de prévisions qui étaient toujours relativement optimistes par rapport aux dépenses. Donc on disait, on va avoir ces recettes et on ne les a pas eues.
Bruno Alomard, d'un coup, c'est ce que disait tout à l'heure Emmanuel Le Chip, qu'on retrouve exactement le même vocable dans la bouche du Premier ministre comme ceux des prédécesseurs, finalement. Rien ne change dans la façon d'aborder le problème.
Oui, enfin, il y a ceux qui ont cru à la révolution macronienne et puis les autres. voilà. Macron, il nous avait dit, et politiquement, on fera différemment, il a fait pire que les autres dans la verticalité. Financièrement, il a un pays qui est dans le pire état dans lequel il n'a jamais été. Donc voilà, et de quoi on discute depuis ici et partout, on discute d'un jeu de bonneteaux, on va prendre 2 milliards par-ci, 3 milliards par-ça, et puis mais on sait pas si la croissance va faire ça, etc. etc. Voilà, j'allais dire, d'un point de vue européen, puisque moi je suis l'Européen de l'étape, oui, le seul truc qui importe pour les gens qui sont pas français,
on parle de l'Europe,
est-ce que tout ça, ça va poser des problèmes à l'euro ou pas? Mm-hmm. Pour le reste, les Français se gèrent n'importe comment, bon, ils s'appauvrissent, ils sont pas contents, tant pis pour eux.
Alors on parlera tout à l'heure de ce que Bruxelles dit, de la façon dont nous regarde Bruxelles. Vous êtes dur parce que vous savez, c'est compliqué un budget, et je voudrais qu'on en parle quelques instants parce qu'on a le plaisir de l'avoir au téléphone. Un ancien secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics entre 2014 et 2017. C'est Christian Eckert qui est au téléphone avec nous. Bonsoir, monsieur Eckert.
Bonsoir.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous quelques minutes sur BFM Business. Donc, secrétaire d'État en charge du budget entre 2014 et 2017 sous François Hollande. Vous dites, je vous lis dans la presse depuis quelques jours, vous dites, il est absolument impossible de faire 40 milliards d'euros d'économies sur la dépense publique. Est-ce que vous maintenez cette affirmation ce soir, monsieur Eckert?
Évidemment, alors je n'ai pas encore vu le détail du projet de loi de finances, mais 40 milliards en une seule année, ça paraît complètement inatteignable si on regarde derrière nous. Donc comment en en est-on arrivé là?
Vous dites sur 1 400 milliards d'euros de dépenses, c'est difficile d'en faire 40, c'est ça que vous dites?
Vous avez un certain nombre de dépenses contraintes, je veux parler des salaires.
Bien sûr.
Vous avez un certain nombre de lois de programmation qui ont été votées. Je pense à l'armée, je pense à la justice, je pense à l'intérieur. Le Premier ministre n'a pas dit qu'il ne les respecterait pas, nous verrons ce soir. En tout cas, ça me semble effectivement hors de portée. Vous savez, il faut avoir beaucoup d'humilité. Un budget, ce sont des prévisions. On voit bien d'ailleurs pour 2024, ces prévisions se sont retrouvées complètement erronées. On avait prévu 4,4% de déficit, on est au-delà de 6.
Oui.
Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et je dis que 40 milliards, c'est quelque chose que l'on peut se donner rendez-vous hein, à la fin de l'année 2025. Et on comptera les milliards d'économies par rapport à une évolution tendancielle de la dépense. Je vous rappelle, fixée aujourd'hui, qui donnerait aujourd'hui un déficit autour de 7% si on ne faisait rien.
Alors, où doit-on faire l'effort? Où est-ce qu'on doit faire l'effort pour vous, Christian Eckert, finalement?
Je pense qu'il faut l'étaler dans le temps, parce que d'abord, il y a des mesures.
Ah bon, on s'en achète du temps, là. On va se donner 4-5 ans pour ramener les déficits à 3%. 4-5 ans, ça laisse le temps, quand même.
Oui, mais je vous rappelle qu'il a été ramené à 3% entre 2012 et 2017. Si vous regardez les chiffres, on était au-delà de 5, on est revenu à 3%.
Oui.
parce qu'on l'a fait dans la durée, c'est vrai, en demandant un certain nombre d'efforts et d'impôts, qui avait recommencé à baisser à la fin de l'année 2016, durant l'année 2017. Donc, il y a eu des baisses massives d'impôts, il y a eu manifestement des erreurs d'appréciation, et des baisses d'impôts n'ont pas été compensées par des économies. C'est là toute la difficulté. Certes, on peut dire que baisser des impôts, c'est toujours finalement une relance de la croissance, un encouragement à la productivité ou à la production, mais si on ne l'accompagne pas de baisse de dépenses, et ça n'a pas été fait l'année dernière, ou cette année même en 2024, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas eu de crise majeure, ni de Covid, de pandémie, de crise majeure internationale, et l'année 2024 est catastrophique. Donc beaucoup d'humilité, un étalement dans le temps, et s'il y a des baisses d'impôts, les accompagner de baisses de dépenses.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Christian Ecker d'avoir été avec nous quelques instants ce soir, ancien secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Je vous ai vu lever les yeux au ciel, Frédéric, quand je disais mais 40 milliards d'euros d'économies dans la dépense publique, ça vous paraît injouable? Ça vous paraît être le mauvais choix?
Non, mais c'est une saignée, et on est vraiment avec les médecins de Molière. Saigner, purgarer, et si le malade proteste, resaigner, repurger. Parce que c'est le malade qui a tort de crier et de hurler. Il y a une logique, là, qui est de penser que les recettes font les dépenses. Et donc, une vision de calcul d'apothicaire, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, sur les recettes, on va couper deux, trois petits trucs, et puis on détermine les dépenses. En réalité, c'est les dépenses qui vont créer les recettes, parce qu'elles vont permettre de développer le pays. C'est toujours comme ça qu'on s'en est sorti. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Nous sommes dans une situation aussi grave que l'après-guerre, qu'au lendemain de la guerre, ou que dans les années 30. Et on s'en est sorti une impulsion de développement.
Le monde n'est plus le même.
Alors, avec nos partenaires européens, on peut le faire. On peut le faire. D'abord, on a 7 ans. D'après le pacte budgétaire, on a 7 ans pour notre trajectoire. Donc on peut faire une courbe en J. On peut proposer, nos partenaires, les Allemands, ils ont un problème de recrutement aussi dans la fonction publique, la santé. C'est pas de la fonction publique chez eux, mais dans la santé, dans l'éducation. Ils ont aussi un problème de fret ferroviaire. Déjà, sur ces trois dimensions, on fait un cofinancement commun à 0% avec l'impôt européen.
Je ne sais pas s'ils sont chauds, les Allemands.
Hein. Le peuple allemand, ce n'est pas forcément les dirigeants allemands. Et d'ailleurs, ils aussi, les dirigeants allemands.
Oui, bien sûr.
Et nous pouvons faire des avances. On peut faire un véhicule budgétaire avec le pôle public bancaire. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Une fois qu'on a vu qu'il faut les bonnes dépenses tout de suite... pour lancer et pour développer.
On parlera de l'Europe dans un instant. Juste avant la pause, une question sur les hausses d'impôts que les Français redoutent. Et où est-ce qu'on en est du consentement à l'impôt en France, finalement, Véronique? Ça, c'est un sujet quand même qui est très, très anxiogène à l'heure actuelle.
C'est un sujet qui est compliqué, parce que le consentement à l'impôt, il passe par trois données majeures, et on n'a aucune des trois. La première, c'est la confiance, et le peuple, qu'il soit français ou allemand, n'a plus vraiment confiance. Il y a une forme de défiance sur les chiffres, sur les experts, sur les politiques. Bref, on ne nous croit plus. Et on ne croit plus la réalité de ce qu'on donne. Donc ça, c'est une base qui est quand même pas très solide. Et puis les deux autres points, c'est la lisibilité et la traçabilité.
Ouais.
Et en réalité, l'impôt, si on ne vous dit pas à quoi il sert et on ne vous raconte pas le suivi d'eux, c'est très difficile. Et comme ça fait très longtemps qu'on ne sait plus à quoi sert l'impôt, même dans les discussions qu'il y a là aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des débats qui sont fluctuants. Le consentement, il n'est pas là. Alors si on vous demande un impôt qui n'est pas trop fort, vous n'avez pas forcément besoin de consentement, mais si on vous demande un très gros effort, le consentement, il est indispensable, sinon ça génère de la colère, de la complexité, et en plus, on parle d'un sujet par communauté, ça, c'est le dénominateur commun de toutes les communautés, que vous soyez un entrepreneur, vous soyez français, que vous soyez un citoyen plus ou moins aisé, dans tous les cas, le consentement, il est basé sur ces trois données qui ne sont plus là pour personne.
Là, le message, il va être complètement inaudible, Michel Rémy, là, pour le coup.
À côté de ça, au-delà de ces aspects, on va dire... potentiel, il y a aussi la fracture territoriale qui, moi, me semble importante et qu'on ne prend pas en considération. C'est-à-dire que quand vous habitez en province, dans une province, vous êtes français, vous payez vos impôts, mais vous attendez un retour. Et là, vous n'avez rien. C'est la différence des grandes villes. Et donc là, on risque d'avoir, et c'est là qui me... C'est en même temps cet aspect, cette crise financière qui cache aussi, on va dire, les tensions sociales qui risquent d'arriver, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise de gilets jaunes ou sur un impôt qui va arriver, qui ne va pas être consenti, et ça. Ouais. J'exagère, mais l'idée, c'est qu'il
y a des tensions sociales.
C'est juste que les gilets jaunes, ce n'était pas tout à fait la même chose. C'est qu'en fait, ils voulaient re-rentrer dans le système. Là, quand vous n'avez pas de consentement, vous avez envie de casser le système. Donc, ça ne veut pas dire que dans les deux cas, vous n'avez pas des émeutes, mais ce n'est pas tout à fait le même.
Non, mais le déclenchement, ça a été une hausse de taxes quand même.
Ouais, c'est la question, on n'a pas vu venir.
Ils avaient l'impression qu'avec cette hausse de taxes, ils sortaient du système, ils avaient envie.
Ils étaient évincés vers la pauvreté.
Ouais, voilà. Michel,
ce qui fait que ce n'est pas tout à fait le même.
Mais le résultat, je m'attendais au résultat et pas forcément le cheminement.
Mais en fait, c'est plus pour notre gouvernement, les leviers pour avancer. Et là où je vous rejoins sur l'opposition et la tension qu'on sent palpable, vous avez, je crois que c'est chez vous d'ailleurs, je ne sais plus, le président de Intermarché,
oui, Thierry Cotillard, voilà, oui.
Qui a dit que les taxes sur la grande distribution ne seraient répercutées sur les prix. Instantanément, ce qui a été repris par l'opinion publique, évidemment par attaque, mais qui a été très, très, qui a suscité énormément d'engagement, c'est contrairement aux aides et subventions et aux suppressions d'impôts, qui, elles, ne sont pas répercutées sur les prix. Et voilà. En fait, on voit bien que dès qu'il y a une déclaration par une communauté, l'autre s'oppose, et donc on a cette tension qui monte et qui n'est pas tout à fait du même registre, effectivement.
Allez, voilà pour ce budget. On continue d'en parler dans un instant, 19h33 sur BFM Business.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h37, on est avec nos experts, Véronique Reissoul, Frédéric Bocara, Michel Ruimi et Bruno Alomar. Alors, on parlait de ce budget, je vous disais, dont on aura les grandes lignes à 20h officiellement. Donc, édition spéciale à 20h sur BFM Business pour décrypter tout ça ensemble, bien évidemment. Alors, il y a la France qui présente son budget et puis il y a Bruxelles qui regarde tout ça. Bruno, vous qui êtes l'Européen de l'étape ce soir, effectivement, on entendait l'autre jour le commissaire européen Gentiloni dire « première discussion prometteuse ». Voilà, les bonnes paroles d'Antoine Armand qui est allé à Bruxelles. Comment est-ce que Bruxelles regarde les premiers pas du gouvernement, les premières paroles de Michel Barnier, les premiers engagements? Est-ce qu'on est prêt à laisser du temps à Michel Barnier, à la France? Peut-être plus à Michel Barnier d'ailleurs, parce que c'est lui. Parce qu'il est du Sérail, parce qu'il a été 10 ans commissaire européen, non?
Est-ce que... Oui, c'est vrai qu'il est du Sérail, mais ses déclarations sur le droit européen, quand il s'est agi d'être le candidat du Parti populaire, sont restées à travers de la gorge de beaucoup de gens à Bruxelles. Moi, je ne suis pas le porte-parole de Mme von der Leyen, donc j'en sais rien. Madame Metsaola du Parlement, mais j'en sais rien. La vraie question, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans quelle mesure les difficultés de la France sont-elles des difficultés pour les autres pays de l'Union européenne? Les autres pays de l'Union européenne, ils vivent leur vie. La Pologne, c'est un pays qui, l'année dernière, a un pays par habitant qui est supérieur maintenant à celui de l'Espagne. Ils sont très contents. Les Espagnols, ils ne sont pas contents. Les Danois, ils ont leurs problèmes, leurs sujets, etc., etc. Tant que le sujet euro n'est pas sur la table... Je veux dire, tout le monde s'en fiche.
La vraie question, c'est la deuxième puissance économique de la zone euro, la France.
Mais la vraie question, c'est est-ce que le sujet France va rallumer le démon de la zone euro ou pas? Alors là, si ça arrive, il va se passer des choses.
Vous semblez dire que c'est possible.
Mais bien sûr que c'est possible. Tout est possible. Aujourd'hui, la France arrive encore à se refinancer. Elle se finance moins bien, mais elle se finance encore. Je veux dire, moi je serais dans la peau d'un Allemand, d'un Italien ou d'un Espagnol, je serais modérément inquiet.
Bon. Je lis cette déclaration d'Aurore Laluc, députée européenne, qui disait la dernière fois qu'on a vu un État membre révéler des dérapages de cette ampleur, référence aux dérapages constatés cette année en France. C'était de la part de la Grèce pour qui la crédibilité de la parole de la France est atteinte aujourd'hui. Est-ce que la France peut entraîner la zone euro dans une nouvelle spirale infernale pour vous, Michel Rémy, ou pas?
À ce jour, non. Pourquoi? Parce qu'il faut voir la situation de la Grèce et la situation de la France, la Grèce de l'époque qui est aujourd'hui. Nous, on a d'ailleurs la TVA rentre bien et l'impôt sur revenu rentre bien, ce qui n'avait pas été le cas avec la Grèce. Donc il y a des arguments qui font qu'on n'est pas dans la même situation.
Les recettes rentrent moins bien en France aujourd'hui, hein.
Je parle au niveau de la comparaison avec la Grèce. Okay, maintenant, ce qui va se poser, bien sûr, la question qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, l'endettement, 3200 milliards, entre guillemets, ne pose pas de problème dans la mesure où c'est une dette perpétuelle. Maintenant, il faut rassurer les financiers en payant les intérêts. Et là, la difficulté va être là, parce que 2026, ça peut encore 25-26, ça peut tenir. Mais à un moment donné, si on arrive en 2027 à ce que le premier poste de dépenses, c'est les intérêts et non pas des dépenses d'investissement, à un moment donné, ça va squeezer.
La projection intérêt-charge-intérêt de la dette en 2027, je crois qu'on est entre 70 et 75 milliards d'euros.
Voilà, tout à fait. On est à 75, ça sera le premier poste de dépense. Ouais. Avant même la masse salariale, si vous préférez. Donc ça pose des problèmes. Ça veut dire qu'avant l'éducation nationale, la justice et tout. Donc ça pose un problème. Quand vous êtes banquier et que vous avez en face de vous une entreprise dont le premier poste de dépense et notamment les charges financières, avant même les charges de personnel, ça peut poser des problèmes sur la pérennité de l'activité.
Vous avez vu l'avertissement début de semaine du ministre allemand des Finances, Christian Lindner, on va voir le tweet si vous nous regardez la télévision, qui disait qu'il ne fallait pas plaisanter avec la crédibilité des finances publiques, il ne fallait pas présenter avec les marchés. Est-ce qu'il faut prendre en considération ce que nous disent les Allemands quand même, Frédéric, pour vous aujourd'hui?
Les gouvernants allemands, il faut toujours prendre en considération, mais on prend en considération comme avec un grain de sel, disons. bah oui, j'allais le dire en latin, mais je ne sais plus décliner mon latin. Mais non, c'est-à-dire que d'abord, il y a une récession en Allemagne.
Ils devraient, ah, eux sont en récession.
Ils sont en récession. Ils sont en grande difficulté. Ils sont en grande difficulté. Donc, faut pas non plus surestimer. Les problèmes de services publics, ils sont dans tous les pays de l'Union européenne. Les PECO, c'est un petit peu différent, effectivement, parce que c'est sur une base de remontée. Même si les services publics sont insuffisants, il y a une base de remontée sur moyen terme. Mais les problèmes de services publics sont partout. Donc, en réalité, si on mettait la table ces questions-là, on pourrait avancer. Qui ose le faire? Malheureusement, pas. Comment dire? Ensuite, la France, elle tire les autres pays. C'est pas l'Allemagne, mais elle tire les autres pays, d'autant qu'elle importe plus que l'Allemagne. Donc, ça pèse. Mais on veut enfermer toujours le débat dans plus ou moins d'impôts. Or, si je vais à nouveau au niveau européen, parce qu'on est tous des Européens, mais au niveau européen, le rapport Draghi, je pense que vous le sous-estimez. Le rapport Draghi, il dit le problème, c'est pas plus ou moins d'impôts.
Mais c'est un idéal, le rapport Draghi. Non, mais, dans le monde, tout le monde le sait.
C'est pas un abruti, Draghi.
Mais j'ai pas dit ça. Bon, alors. J'ai jamais dit ça.
Alors prenons au sérieux ce qui est dit.
C'est l'idéal, ce que dit Draghi. Oui, effectivement, on aimerait tous.
Ce qu'il dit, le principal, c'est de se développer. Et donc de dépenser plus. La question, c'est comment on fait, d'où on tire les financements, pas forcément les recettes, et où on les dépense. Et c'est ça qui devrait être le débat. Et les financements, dans un premier temps, c'est pas des impôts, c'est des avances. C'est toujours comme ça.
C'est un idéaliste, Mario Draghi, pour vous.
La Banque Centrale Européenne, elle sert à faire des avances.
Bruno Alomar, oui.
Elle est centrale.
Alors, la Banque Centrale Européenne.
Les Américains et les Chinois, ils ont compris qu'il faut mobiliser la Banque Centrale pour se développer.
Oui, enfin,
et
nous, on va pas le faire. La BCE est indépendante.
Oui. Alors, mais on peut la mobiliser de toute autre façon.
Oui, tout à
l'article 123.2 du traité du fonctionnement de l'Union Européenne permet de créer un fonds européen financé par la
Banque Centrale. D'une part, elle est indépendante.
On peut le faire.
D'une part, elle est indépendante. De deux, elles ont tiré des épées.
Mais bien sûr, Bruno, parce qu'on l'a pas fait indépendante, en fait.
Bruno Alomar.
Et c'est là qu'on l'a contourné. C'est là que tous Européens ou pas autour de la table, on va quand même arriver à des désaccords. Le premier désaccord fondamental, c'est qu'on ne comprend pas beaucoup de choses qui sont vraies dans le rapport Draghi. Beaucoup de choses qui sont vraies. Mais pourquoi le rapport Draghi, il n'est pas écouté, et notamment en Allemagne, et notamment aux Pays-Bas, dans une grande partie des pays de la zone euro? Parce que tous ces gens-là, ce qu'ils pensent, c'est que les dépenses excessives, on les a déjà faites par de la politique monétaire accommodante qu'ils n'ont jamais digérée. Donc pour eux, cet argent, il a déjà été... Et c'est pour ça que la cour de Karlsruhe, elle dit, c'était one et end de là, c'était une fois et jamais plus. C'est pour ça qu'on n'aura pas de deuxième budget. De deuxième recovery fund. Il n'y en aura pas, parce que tous ces pays-là s'y opposeront.
On ne fera pas ce qu'on avait pendant le Covid, notamment.
Leurs gouvernants, en tout cas, pas leur peuple. Leurs peuples vont virer les gouvernants.
Quel que soit ce qu'on en pense au fond, je n'ai pas dit que c'était bien ou que ce n'était pas bien. Je dis simplement que c'est la situation politique. Par ailleurs, pour rebondir brièvement sur ce qui a été dit sur la Grèce et la France, comparaison des paraisons, on est en 2024, c'était 2015, etc., etc. Il y a quelque chose, et là encore je suis en désaccord avec mon voisin, en tout cas peut-être, il y a quelque chose de fondamental qui a changé dans l'Union européenne, c'est ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, aujourd'hui, vous avez une extrême droite, il faut faire un peu de politique quand on fait de l'économie, qui est à 25 ou 30%, qui s'appelle l'AFD. Ces gens, c'est des gens qui sont nés pas du rejet migratoire, de xénophobie, comme les partis d'extrême droite habituels. Ils sont nés de quelque chose de bien précis, c'est le rejet de la politique monétaire. Aujourd'hui, croire, et c'est ça mon point, croire que on pourrait, pour sauver les finances publiques françaises, demander aux autres pays de l'Union européenne, et pas seulement à l'Allemagne...
C'est faux, c'est pas ce que je dis.
Non, attendez.
Pas les autres pays. Se développer ensemble, c'est ça l'enjeu.
Je termine juste le point.
Vous balisez le débat de façon erronée.
Je termine le point. Aujourd'hui, un chancelier allemand, et vous l'avez dit, la Banque Centrale est indépendante, mais imaginons qu'elle ne soit pas indépendante, n'aura pas du tout les marges de manœuvre, quand bien même le voudrait-il, pour que la Banque Centrale Européenne aujourd'hui achète du papier français, pour dire les choses très simplement. Donc, c'est ce que j'essaie de dire tout à l'heure. Nous sommes seuls avec nos problèmes en réalité. C'est ça le point.
Véronique.
C'est l'impression que les Français ont en soi. C'est pour ça que ils demandent au gouvernement de s'engager, d'être plus lisible, d'expliquer le pourquoi. Ils ont compris qu'ils feraient des efforts, mais ils ont compris que, oui, l'Europe est une... on va dire, une barrière pour se protéger, mais ils n'ont pas tellement l'impression que l'Europe va les soutenir plus que ça et que c'est de notre faute si on est dans cette situation-là. Quoi.
Donc,
alors, je vous rassure, les Français ne pensent pas que c'est de leur faute. Je pense que c'est de la faute des gouvernants. Mais globalement, oui, ce sentiment de l'Europe est une protection, mais en même temps ne va pas venir à notre secours plus que ça, c'est ce qui ressort le plus fortement. Et quelles que soient les catégories, quelles que soient les dons, on va dire les proximités.
Donc c'est la fin du grand soir européen, la fin des grands rêves d'intégration. Non, Michel, je vous vois sourire. Est-ce que c'est la fin du grand rêve d'intégration?
Parce qu'on veut faire croire aux Français que les Allemands vont bien, ils sont dans les mêmes difficultés.
Mais on n'a jamais
dit
le contraire.
On nous dit sans cesse le contraire.
Il y a 2 ans de récession, si.
Ils ont les services publics étranglés, leur manque 100 000 soignants à l'hôpital.
Non, la difficulté est qu'aujourd'hui.
Vous savez d'ailleurs, j'en profite pour dire que les propos de Christian Lindner qui a lancé un tacle ont été mal accueillis, notamment en Allemagne. On a dit on ferait bien de balayer devant notre porte. Voilà, ça a été. Pardon, je.
Dans les milieux dirigeants allemands.
Oui.
Non, la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, toute la famille est malade, en fait, plus ou moins des degrés importants. La question, c'est aujourd'hui, d'habitude, il y avait l'oncle qui était très fort, qui pouvait absorber. Aujourd'hui, même l'oncle est malade. Donc, chacun interprète qui. Donc, la question qui se pose, c'est bien sûr que ça va poser. Mais en même temps, quand ça a tangué, les hommes politiques ont créé le MES, etc., pour arriver. Donc, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on est capable de pouvoir, collectivement, alors, avec FMI ou pas, ça je laisse la part. Oula. Mais la question est là, parce que la situation, c'est est-ce qu'il faut bien sauver la France ou est-ce que la France va entraîner tous les autres pays parce qu'il y a un effet de proximité, de domino. Donc ça pose ce type. La question que je me pose aussi, ce qu'il faudrait bien aussi en même temps, c'est que demain, je crois que c'est Moody's qui note la France.
Et
donc,
c'est Fitch demain, on va voir le calendrier. Oui,
Fitch,
oui.
Et donc on alors, aura ça, déjà
alors,
les premières
réponses. Alors en plein milieu de la discussion parlementaire, ça va être formidable. Fitch demain, effectivement, Moody's dans une quinzaine de jours, vous nous regardez
donc,
à la télévision.
On aura la réponse.
Et Standard & Poor's,
mais je pense qu'on a tort de dire qu'il s'agit de sauver la France pour sauver les autres. Les autres, ils sont mités eux aussi. Si l'AFD connaît ses scores, c'est pas seulement pour cette raison, à mon avis. Elle est mineure. Les principales raisons, c'est la guerre, c'est sur le pacifisme, et c'est les services publics.
On n'a pas dit
si on ne dit pas qu'on souffre ensemble de ce même déficit de services publics et que l'économie en souffre aussi parce que l'innovation tout ça, on ne permet pas de voir les lueurs possibles pour se développer,
mais
pour sortir.
Visiblement, personne n'a envie d'aller. Oui, Bruno.
Pour rebondir aussi sur l'idée, on fait des choses ensemble, etc. Par solidarité. Enfin, faut aussi regarder le passé. C'est-à-dire que imaginons qu'il y ait une crise et qu'elle concerne la France de telle sorte qu'elle concerne les autres. Les autres, l'Allemagne, mais pas seulement, l'Union européenne, c'est 27 États membres, etc. Les autres, ils feront la même chose à l'égard de la France que ce qu'ils ont fait à l'égard de la Grèce. Mais est-ce que les Français sont prêts à ce qu'un pouvoir européen, une forme de troïka européenne, leur dise bon, écoutez, les Français.
La situation n'est pas là. C'est le petit chaperon rouge.
Non.
Parce qu'il y a l'Espagne, il y a l'Italie qui sont en plus grande difficulté encore que la France du point de vue du déficit.
Laissez-moi finir. Je parle juste.
Là, c'est pour faire peur aux enfants.
Je parle juste de la France. Ce que je dis, c'est que aujourd'hui, je reprends mon expression, on fait du bonneto à 2 ou 3 milliards en France, etc. Si, et pour autant que la France, toute seule comme une grande, sans l'aide de personne, ne se remet pas d'équerre, d'autres vont le faire à notre place. Ça s'appellera le FMI, ça s'appellera la Troïka.
On a vu en Grèce, évidemment, au Portugal.
Et dans des proportions qui feront bien plus mal, et ce sera un drame pour nous tous. C'est ça le sujet.
Mais ce discours est complètement inaudible aujourd'hui Personne n'imagine que la France puisse connaître ne serait-ce que ce qu'a connu la Grande-Bretagne il y a 2 ans.
D'autant qu'on sort d'une période où période électorale, tout le monde a rappelé combien les chiffres étaient bons, combien on avait progressé, combien on était un pays d'appel, combien l'économie se portait bien et faisait que grâce à Choose France, on avait une attractivité hors pair. Donc on ne peut pas dire ça et peu de temps après dire bon, en fait c'est pas si bien que ça et en fait il va falloir faire des efforts et il va falloir faire tellement d'efforts que si vous voulez pas devenir des Grecs, donc il y a quelques voix évidemment qui l'entendent, mais globalement la grande majorité, c'est la même chose que cette histoire d'argent magique qui est sortie pendant le Covid, qui fait que les gens disent on a bien trouvé au moment du Covid, trouvons-la. On ne sait pas où, mais trouvons.
Mais la France n'est pas une exception en Europe. C'est là où nous sommes.
Frédéric Bocara.
D'accord, c'est sur le diagnostic.
Et là
l'Italie est en grave difficulté.
Mais bien sûr,
l'Espagne a sa croissance. Mais
l'Espagne est une locomotive.
Ça n'aide pas le pays public à comprendre ce qu'on entend.
En 30 secondes, juste 2 choses. Les difficultés de l'Espagne, vous avez travaillé à l'INSEE, j'ai beaucoup de respect pour l'INSEE. Destatis, qui est l'INSEE allemand. Statistique et l'INSEE allemand nous expliquaient qu'en 2023, l'Allemagne faisait encore 227 milliards d'excédents commerciaux. Je pense qu'on serait bien content d'avoir le quart ou le dixième, premièrement. Et deuxièmement, là je vous rejoins, l'un des grands problèmes des Européens, et le Brexit aussi, c'est ça, c'est les services publics. Mais jusqu'à preuve du contraire, les services publics, ils sont gérés chaque pays par pays.
Mais
et il y a des pays où la santé,
commun.
Ça va super bien, et d'autres, ça va pas bien. Et des pays...
L'Allemagne, il leur manque 100 000 soignants.
Au Danemark, ça va très bien. Voilà.
Tout petit.
Voilà, c'est tout petit. Et c'est hors de l'euro.
Pourquoi c'est important de dire l'Allemagne? Parce que on se dit, mais alors si les voisins allemands, alors peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble. Il faut pousser ce qui permet de faire ensemble.
Ce qui est vrai, c'est qu'on entend toujours que les autres vont bien, et il y a toujours des comparaisons en expliquant qu'ailleurs c'est formidable. On entend rarement le fait que nous ne sommes pas les seuls dans des positions difficiles. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est une réalité qui est que c'est pas du tout ça dans la perception de l'opinion publique.
La comparaison a toujours tendance à être un petit peu résumée à l'Allemagne. En fait, c'est ça le problème, effectivement.
De moins en moins.
Bon, la France va-t-elle passer le test des agences de notation? Ça, effectivement, vous voyez le.
Ça va alimenter.
À chaque fois, on se plante sur les prévisions, vous savez, Michel. On fait des prévisions.
Pour avoir été aussi prévisionniste, mais la grande difficulté, c'est la question qui se pose, c'est est-ce que la France a la capacité de rassurer ses banquiers, entre guillemets, et donc, c'est-à-dire de payer ses intérêts. Tant qu'on le fait, il n'y a pas de problème. Après, vu les conditions dans lesquelles on va, on va avoir des problèmes de financement, on va dire, d'argent de poche.
Ils peuvent faire payer plus cher, les banquiers,
c'est le problème.
Après, ils ont beaucoup d'argent trop à prêter. Donc...
Non, la question qui peut se poser, c'est d'où ça sort.
Vous savez qu'on va emprunter 300 milliards d'euros l'an prochain sur les marchés. 315 pour être précis.
Ouais, ça marche bien, ça.
On est en train de se réjouir. Alors, de s'en lamenter, mais de se réjouir en même temps du fait que, comme les Allemands vont emprunter moins et que les Espagnols vont emprunter moins, on va peut-être ramasser la mise. Voilà où on en est, finalement. C'est ça.
Avec l'efficacité de l'administration fiscale française, c'est l'une des raisons pour lesquelles on arrive à placer notre papier depuis une dizaine d'années.
France Trésor,
l'efficacité de l'agence France Trésor, dont il faut saluer une fois de plus l'incroyable boulot. Ils sont quelques dizaines à Bercy, ceux qui rament tous les jours.
C'est des vilains techno.
Non, c'est pas des vilains techno, c'est des héros de l'époque.
C'est la finance.
Non, c'est des héros de l'époque moderne, parce qu'ils rament tous les jours pour trouver de l'argent et expliquer la France, ses complexités à travers le monde. Et ils arrivent, on y arrive à chaque fois. Allez, c'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup à tous les quatre. Est venue Véronique Reissoult, qui était avec nous, présidente de Backbone Consulting, spécialiste de l'opinion, Frédéric Bocara, économiste, membre des économistes atterrés, Michel Ruimi, économiste, partenaire de Lévy Capital Partners, et Bruno Lomart, directeur général de New Horizon Partners. Merci à tous les quatre. 19h54, je vous redonne les grands titres de l'actualité rapidement. Le gouvernement qui présente donc son projet de budget 2025 en ce moment au Conseil des ministres, qui devrait donc se traduire par un effort de quelques 60 milliards d'euros, mais on aura les détails dans quelques instants à 20h, l'INSEE qui maintient sa prévision de croissance à 1,5% pour cette année. L'Institut de la Conjoncture nous a donné cette prévision il y a de ça quelques instants. Et puis, mauvaise passe pour IKEA. Le groupe nous a dit ce matin que sur son exercice annuel qui s'est achevé fin août, son chiffre d'affaires avait baissé d'un peu plus de 5%. Sur un an, le groupe a dû baisser ses prix pour s'adapter à la crise du pouvoir d'achat et s'adapter au coup de frein du marché de l'ameublement. 19h55, les grandes lignes du budget dans un instant. Et puis, Tekkenco dans la foulée, évidemment, sur BFM Business. Très bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.